7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À la une de l'actualité politique en Algérie, en ce mardi 12 mars, le président Abdelaziz Bouteflika, en poste depuis 20 ans, finalement renonce à un cinquième mandat, scène de liesse populaire hier dans les rues d'Alger. On vous en parle dans quelques secondes dans le journal de 7h avec Hélène Zélani. Où va l'Algérie? Je poserai la question à 7h45 à mon invité, le journaliste franco-algérien Mohamed Sifaoui. À 8h12, ne manquez pas l'analyse d'un spécialiste, l'analyse de Vincent Hervouet. Vous avez dormi combien d'heures cette nuit? Non, mais c'est important parce que c'est une étude que révèle Santé publique France ce matin. Les Français, écoutez bien, dorment de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes stressé, vous l'entendrez, les conséquences sur la santé peuvent être dangereuses. Il faut dormir, et c'est quelqu'un qui dort peu qui vous le dit. Un anniversaire également à la une aujourd'hui, le web, Internet qui fête ses 30 ans. On va faire le bilan de cette révolution technologique qui a bouleversé notre quotidien à 7h20 dans Europe 1. Va plus loin. Et puis le grand retour de Zizou au Real Madrid, un événement qui dépasse la simple dimension footballistique. Zidane est de retour dans l'arène du foot, on vous dira pourquoi. Voilà pour le programme, prenez soin de vous, réveillez-vous tranquillement, on vous accompagne jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce mardi 12 mars. Excellent réveil, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Hélène Zélani, bonjour chère Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Une première victoire pour les Algériens. Le président Bouteflika ne se représentera pas. En revanche, il ne donne aucune date pour la prochaine présidentielle. Une nouvelle affaire de fausse victime du Bataclan devant la justice. L'homme avait obtenu près de 80 000 euros d'indemnisation. Et puis Zizou le retour, Zinedine Zidane qui revient à la tête du Real Madrid 9 mois après sa démission surprise. Première séance d'entraînement dès aujourd'hui.
Et Philippe Deville sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15.
Il aura donc fallu 3 semaines de contestation inédite en Algérie et une annonce tombée hier en fin de journée. Le président Bouteflika, âgé de 82 ans, à la santé fragile depuis un AVC, renonce finalement à un cinquième mandat. La présidentielle du 18 avril est certes reportée, mais sans autre date. À la une de l'influent quotidien El Watan ce matin, il annule la présidentielle mais reste au pouvoir, la dernière ruse de Bouteflika. D'ailleurs, hier soir à Alger, la population criait sa joie tout en étant consciente que la partie n'était pas encore gagnée. Écoutez le reportage du correspondant d'Europe 1, Nour Chahine.
À l'annonce du retrait de la candidature de Bouteflika pour la présidentielle d'avril prochain, le centre d'Alger s'est rempli de monde venu fêter la nouvelle.
Le peuple a gagné, eh bien, la tête de la pyramide s'en va.
On est là pour fêter une première victoire. Mais attention, il faut rester vigilant, c'est pas encore fini.
Je suis très contente, mais on attend la suite, si c'est le vrai changement ou pas.
Salim, un avocat de 36 ans, regarde étonné ces scènes de liesse.
C'est des scènes de liesse qui devraient vraiment se calmer parce que ça n'est pas une victoire, ça c'est une évidence. Bouteflika n'existe pas depuis 7 ans, c'est une mafia qui est derrière, qui essaye de manipuler le peuple et qui pense que ce peuple-là est assez idiot pour croire à toutes leurs magouilles parce que le combat, il vient à peine de commencer.
Pas de cinquième mandat, un nouveau gouvernement et un report de l'élection présidentielle. Une série de décisions qui laissent certains Algériens perplexes.
Il n'a pas le droit de reporter les élections, il a le droit de se retirer, mais c'est à nous de décider en tant que citoyens ce que nous devons faire.
D'une élection anticipée, Bouteflika est passé à l'option du prolongement de son mandat, du pareil au même, selon les premières réactions ici à Alger.
Reportage signé Nour Chahine. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, salue la décision du président Bouteflika. Quant à Emmanuel Macron, il devrait s'exprimer ce matin depuis Djibouti, où il vient de commencer un périple en Afrique.
Et pour comprendre ce qui se passe en Algérie à 7h45, je vais recevoir le journaliste Mohamed Sifaoui, auteur de l'ouvrage « Où va l'Algérie ?».
L'autre grande question du jour, c'est « Où va la Grande-Bretagne à 17 jours du Brexit ?». Theresa May va pour la deuxième fois soumettre l'accord à la Chambre des communes. Mi-janvier, les députés l'avaient rejeté. Hier soir, la Première ministre était à Strasbourg, où elle a arraché quelques gages aux Européens. Jean-Claude Juncker, président de la Commission, espère que cela suffira pour convaincre une majorité d'élus britanniques.
En politique, parfois, vous avez une seconde chance. Mais ce que vous faites avec cette deuxième chance est important. Il n'y aura pas de troisième chance si le vote au Parlement échoue. Soyons complètement clairs. Soit c'est cet accord, soit il n'y aura peut-être pas de Brexit du tout. Les députés britanniques ont une lourde responsabilité. Ils ont un choix fondamental à faire.
Jean-Claude Juncker au micro Europe 1 d'Isabelle Horry. Toujours l'incertitude après l'accident du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. On attend l'exploitation des informations des boîtes noires aux États-Unis. L'Agence fédérale de l'aviation demande à Boeing de modifier ses modèles au plus tard en avril, mais elle ne les immobilise pas. Europe 1, il est 7h04.
Ce matin à 9h va s'ouvrir le plus grand procès de l'histoire des prud'hommes.
Oui, une audience qui sera d'ailleurs délocalisée dans une salle de Rieux-la-Pape près de Lyon en raison du nombre de plaignants, 1200 salariés qui poursuivent leur entreprise, le fabricant de camions Renault Trucks, pour les avoir exposés à l'amiante dans l'usine de Vénissieux. Reportage de Jean-Luc Bougeon.
Yves Gillier a fait toute sa carrière chez Renault Trucks. Quand il y entre dans les années 60 à 18 ans, l'entreprise fabrique déjà des camions, mais elle s'appelle Berliet, puis Renault Véhicules Industriels. Yves est embauché à la fonderie, il y reste près de 40 ans, sans arrêt, exposé à l'amiante.
On avait des vêtements en amiante, des gants en amiante, on découpait l'amiante. Moi, j'ai travaillé sur des boîtes chaudes qu'on appelait. On se couchait sur l'amiante, carrément, quoi. Et puis tous les joints clingeries, tout ça, c'était tout de l'amiante, quoi. Je fais partie de ceux qui ont vraiment trempé dedans, quoi.
Autour de lui, une dizaine de ses collègues sont morts ces dernières années des suites d'un cancer dû à l'amiante. Alors pour l'instant, Yves va bien, mais demain...
Il y a toujours les peines de Damoclès suspendues, là. Hein. On ne sait pas. Dans un an, deux ans, dix ans, ça peut se déclarer, quoi.
Gilles Cavalieri aussi a été exposé durant presque 40 ans. Alors certes, l'amiante n'a été interdite qu'en 96, mais selon lui, l'employeur savait bien avant que la substance était dangereuse.
Bien sûr qu'ils savaient. Ils ont toujours su. Et même quand, dans les années 90, où on commençait vraiment à en parler, même là, rien ne nous était proposé dans la protection. Et on a continué à travailler comme on travaillait dans les années 70, sans mort. Parce que sans protection, c'est rien du tout.
Chacun des 1200 salariés réclame donc 30 000 euros d'indemnité à Renault Trucks au titre du préjudice d'anxiété. Vénissieux, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et le coût total pour l'entreprise pourrait dépasser les 40 millions d'euros. Jamais les Français n'ont aussi peu dormi. Selon une étude qui porte sur plus de 12 600 personnes de 18 à 75 ans, le temps de sommeil est descendu à 6h34 en semaine, en dessous des 7 heures recommandées pour une bonne récupération.
Oulala.
La faute aux écrans, au bruit ou encore au trajet quotidien, on va y revenir dans le journal de 7h30.
Europe 1. Dans un instant, la suite du journal avec vous, Hélène Zélani. Vous dormez combien de temps, Hélène ?
6 heures.
Eh ben voilà, c'est déjà beaucoup. Et le procès d'une fausse victime du Bataclan. Si, si, ça existe. On vous dira tout sur Europe 1 dans quelques instants. Tout de suite.
Il est 7h16, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani et une fausse victime du Bataclan qui va devoir s'expliquer aujourd'hui devant la justice.
Oui, l'homme comparaît devant le tribunal correctionnel de Créteil, notamment pour escroquerie. Il a en effet perçu 77 000 euros de la part du fonds de garantie des victimes du terrorisme, un record. Record de longévité dans le mensonge également, puisqu'il a réussi à passer entre les mailles du filet pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il soit démasqué par des membres de l'association Life for Paris. Chloé Triomphe.
Âgé de 27 ans, Jean-Luc a toujours dit qu'il était au Bataclan avec 2 amis et que lorsque les portes se sont ouvertes, il a réussi à s'enfuir seul avant de passer la nuit à se cacher dans le petit parc en face de la salle de concert. Plus tard, bien intégré dans la communauté des victimes, il a participé à des reportages, au stage de plongée en Guadeloupe avec une trentaine de rescapés et même à l'étude biomédicale Remember sur l'évolution du traumatisme subi. De l'État, il a obtenu près de 80 000 euros d'indemnisation jusqu'à ce que son mensonge soit découvert par des membres de l'association Life for Paris, comme l'explique son président Arthur Desnouveaux.
Ce qui se passe en général, en revanche, c'est que ces personnes qui ne sont pas victimes et intègrent la communauté des victimes finissent par se couper dans leur récit et qu'il y a des vraies victimes qui se rendent compte que c'est pas crédible. Donc oui, escroquer la solidarité nationale, c'est tout à fait inacceptable. Donc il faut être clair, toutes les fausses victimes doivent être démasquées et poursuivies à hauteur des infractions qu'elles ont commises.
Et c'est effectivement à cause de ces différentes versions confiées à 2 de ses petites amies successives au sein de l'association que le doute est né. L'enquête a finalement révélé que ce soir-là, son téléphone ne bornait pas au Bataclan et qu'il était probablement chez lui à Nancy.
Chloé Triomphe. Mehdi Nemmouche condamné à la perpétuité, verdict prononcé après 8 heures de délibération aux assises de Bruxelles pour les 4 assassinats du musée juif. Le djihadiste français qui n'a donné aucune explication en 9 semaines d'audience est resté impassible à l'annonce de sa peine. Et puis cette grosse frayeur pour une quarantaine de skieurs dans la station d'Avoria en Haute-Savoie. Ils sont restés bloqués sur un télésiège pendant plusieurs heures hier à cause de fortes rafales de vent qui avaient provoqué une panne. Ils ont finalement été évacués un par un et sont sains et saufs.
Une bonne nouvelle dans le monde du foot, Zidane revient. Zizi Zizou reprend du service au Real Madrid. Je vais faire comme Johnny qui disait « J'aime bien Zizou ».
L'icône française est en effet rappelée après l'humiliation contre l'Ajax et l'élimination en Ligue des Champions. Heureux de retrouver sa maison, comme il le dit. Zidane, qui avait démissionné en pleine gloire il y a 9 mois, va maintenant devoir bâtir une nouvelle équipe à Madrid. Henri de Laguerre.
Attendu comme un sauveur, Zidane a, selon ses termes, rechargé les batteries. Il en aura besoin car il récupère une équipe en fin de cycle. Tout est à reconstruire. Et les 11 matchs à venir avant la fin de la saison permettront surtout de préparer l'avenir. Un avenir qui passe par un gros recrutement cet été. Zidane a forcément eu des garanties de la part de son président, même s'il a évité le sujet hier soir.
Je ne pense pas du tout à ça. Et je pense simplement à nos 11 matchs qui nous restent. Après, le reste, on aura le temps de voir. Mais c'est sûr que ces 11 parties, c'est aussi pour préparer la prochaine saison.
Cristiano Ronaldo n'a jamais été remplacé, c'est le PSG qui a du souci à se faire. Le président du Real fera tout pour recruter Neymar ou Mbappé. Le jeune attaquant des Bleus à la cote auprès des supporters, Oscar le voit bien rejoindre l'Espagne.
Quel joueur ne voudra pas venir à Madrid avec Zidane comme entraîneur? Mbappé est tellement bon et comme Zidane est français, il pourra le convaincre.
Mais Mbappé a rappelé son attachement au PSG. Neymar, lui, n'a pas complètement fermé la porte. Le feuilleton des transferts ne fait que commencer. Mais en tout cas, Zidane sait qu'il aura les mains libres pour confectionner l'équipe de son choix. Madrid, Henri de Laguerre. Europe 1.
Un nouveau contrat qui court jusqu'en 2022 Zizou. Pour Zizou qui dirigera sa première séance d'entraînement dès aujourd'hui.
Ah oui, il l'appelle comme ça, Zidane, hein, en Espagne. Zizou.
Zizou.
Allez-y.
Je ne parle pas espagnol du tout, moi.
Muchas gracias, c'était le journal d'Hélène Zeleny.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, on continue avec Carole Ferry, Nikos qui se trouve sur le terrain comme chaque jour.
Alors, vous êtes où ce matin ma chère Carole? Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Écoutez, je suis dans une unité de police très particulière, créée récemment, dans laquelle personne n'a encore mis les pieds. C'est la cellule d'enquête spéciale Gilets jaunes. Nous sommes au deuxième étage de l'hôtel de police de Lyon. Vous avez là une équipe de 4 enquêteurs venus de la police criminelle, de la financière ou encore de la protection de la famille. Mmh. Leur mission au quotidien, identifier les casseurs qui n'ont pas été interpellés en flagrant délit lors des manifestations. Ils travaillent essentiellement, vous allez l'entendre, avec toutes les vidéos à leur disposition.
Bon, on se réunit tous, on fait le point sur ce qui s'est passé ce week-end. Vous avez vu, il y a des faits qui n'ont pas été judiciarisés là, du week-end, où on voit un jeune jeter un pavé sur les collègues sur le quai. Est-ce qu'il y en a un qui peut nous faire une extraction vidéo?
Ouais, bah moi, je vais me charger des vidéos de la gendarmerie à ce moment-là. Je vais regarder de mon côté.
Ok, bah je prends les vidéos de la ville et on va essayer de le retracer sur l'ensemble du parcours de la manifestation, voir s'il y a d'autres moments où il est virulent ou s'il y a d'autres infractions qui sont commises.
Alors, vidéo de la ville, vidéo de la gendarmerie, elles viennent d'où toutes ces images?
Bah, la ville, hein, ce sont simplement les caméras de surveillance de Lyon. La gendarmerie, ce sont les images filmées par l'hélicoptère, vous savez, pendant la manifestation. Mmh. Alors, vous avez des plans larges qui zooment dès qu'il y a un mouvement de foule. Et l'idée, c'est de comparer toutes ces vidéos pour voir si un individu violent est repéré ailleurs, à visage découvert. L'équipe compte aussi un spécialiste des réseaux sociaux. Lui, son rôle, c'est de scruter toutes les vidéos publiées sur Internet ou dans les médias.
D'accord.
Là, on a un exemple. Hein. On a une scène de 40 minutes en tout, où de nombreuses personnes dégradent le mobilier urbain, caillassent la police et démontent des chantiers en cours le long de l'autoroute à Lyon. Donc là, vous voyez sur cette image donc le personnage avec la capuche jaune. On le voit jeter un caillou sur les forces de l'ordre qui sont à 15 mètres. Donc en revisionnant ces images au ralenti, en image par image, ça permet de laisser apparaître son visage à l'écran. Et avec le logiciel notamment de reconnaissance faciale qu'on a au niveau de la police, ça met un nom sur cette photo-là.
Voilà, alors cette cellule est également épaulée par la police scientifique qui peut par exemple comparer de l'ADN retrouvé sur un projectile. C'est un véritable travail de fourmi, hein, vous l'avez compris, qui a permis quand même d'interpeller une personne par semaine en moyenne depuis le début de l'année.
Merci Carole Ferry. Alors à vos côtés se trouve le commissaire Jean-Daniel Doran. Il est adjoint au chef de la Sûreté départementale du Rhône. Bonjour commissaire.
Bonjour.
Est-ce que c'est vraiment indispensable une cellule spéciale telle que celle-ci pour identifier des casseurs?
Bien sûr, on est efficace et je dirais qu'on est efficace principalement pour deux raisons. La première, elle tient au fait qu'on a des enquêteurs qui sont exclusivement dédiés à l'élucidation de ces affaires-là et qui peuvent donc y consacrer l'intégralité de leur temps. Mmh. Et le deuxième point, c'est qu'on en est quand même aujourd'hui à l'acte 18 du mouvement des Gilets jaunes et que donc nous-mêmes, on améliore notre connaissance de ce phénomène de délinquance et du mode opératoire des fauteurs de troubles dans les cortèges.
D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'après 18 semaines, vous en savez un peu plus sur le profil type du casseur ? Parfois on dit c'était un gilet jaune casseur ou c'était un casseur ou quelqu'un qui venait juste pour semer le trouble. C'est quoi le profil que vous avez décelé au bout de 18 semaines ?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de profil type. Il y a une part de jeunes gens mineurs âgés de 15 à 18 ans qui est importante, mais on a aussi des pères et des mères de famille qui sont dans une situation professionnelle stabilisée. Il y a des gens qui sont affiliés à des mouvances contestataires, d'autres non. Des personnes qui sont connues de nos services de police, d'autres qui n'ont jamais été mises en cause dans des procédures. Bref, il y a un panel très large. Mais finalement, la constante, c'est qu'on a quand même affaire à des personnes qui participent à des manifestations non déclarées et qui viennent dans ces manifestations comme une sorte d'exutoire, de défouloir et qui adopte un comportement qui est constitutif d'infraction pénale et qui du coup n'est pas acceptable dans un état de droit.
Merci commissaire Jean-Daniel Doran et merci Carole Ferry.
Journée.
À vous aussi et surtout merci Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1 pour cette immersion exclusive parce que c'était la toute première fois qu'une journaliste était autorisée ce matin à ouvrir les portes de cette cellule d'enquête spéciale. Il y en a 14 comme celle-ci un peu partout en France. Merci pour cette première Carole, bravo.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito éco avec vous, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
L'alliance Renault-Nissan peut-elle encore survivre sans Carlos Ghosn ?
Eh bien la réponse est oui, mais on a frôlé la catastrophe.
7h20, c'était il y a pile 30 ans. Vous en souvenez de la naissance d'Internet ? Vous
Ouh là
étiez
là.
Où ?
Ouh là là, j'étais au Japon.
Et alors ? Vous avez cliqué
ça commençait
ce jour-là.
Tout juste, c'est vrai. Ouais.
Surtout au Japon d'ailleurs, très très Exactement. Connecté à l'époque. Que s'est-il passé depuis 3 décennies ? Internet a changé nos vies. Comment est-ce qu'on peut se projeter dans 30 ans ? François Geffrier nous raconte tout dans Europe 1 va plus loin.
Excellent réveil à tous sur Europe 1, il est 7h16. Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Trois titres à 7h18, vous l'avez dit. Mehdi Nemmouch, condamné à la prison à vie. Décision des assises de Bruxelles pour l'assassinat de 4 personnes au musée juif de la ville. La justice a notamment dénoncé l'absence de regret du djihadiste français. Emmanuel Macron entame son périple en Afrique de l'Est. Le chef de l'État est arrivé sur la base militaire française de Djibouti. Il devrait s'exprimer ce matin après la décision de Bouteflika, du président Bouteflika, de ne pas briguer un cinquième mandat. Et puis un vote crucial pour le Brexit au Parlement britannique. Theresa May a annoncé hier soir avoir obtenu des garanties de dernière minute.
Europe 1. Et c'est l'heure de l'édito éco à présent, Nikos, avec Courtois, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Courtois, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, est avec nous, un spécialiste. Il connaît bien le Japon, il connaît bien l'industrie automobile. Et depuis 3 mois, les dirigeants de Renault et de Nissan avaient du mal à rester zen. C'était même plus que ça, c'était très tendu. Apparemment, c'est en train de changer, Nicolas.
Oui, c'est en train de changer. Alors, effectivement, depuis 3 mois, entre Renault et Nissan, il n'y avait que des tensions, de l'acrimonie, de la suspicion. Changement complet de paysage ce matin puisque les dirigeants de Renault, de Nissan et de Mitsubishi, qui est le troisième partenaire de l'Alliance, se retrouvent ensemble pour mettre en place un nouveau conseil de l'Alliance. En clair, ils sont en train de faire la démonstration que cette alliance un peu baroque peut survivre à Carlos Ghosn. On le croyait totalement incontournable, on pensait que sans lui, l'Alliance allait s'effondrer. Eh bien non.
Alors c'est quoi une alliance un peu baroque qui a été plus forte que le scandale ?
Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est tout simplement le pragmatisme qui l'emporte entre ces 3 partenaires qui ont décidé de continuer à être alliés. Alors, ce nouveau conseil de l'Alliance prendra par consensus les grandes décisions sur les projets en commun des constructeurs, tout en respectant l'indépendance de chacun. Il réunira les 3 PDG. Il se réunira, ce conseil, à Paris et à Tokyo. Donc, fini les structures aux Pays-Bas, vous savez, qui avaient été créées par Carlos Ghosn. Cette page est complètement tournée. Cette nouvelle organisation, en fait, on la doit très largement à Jean-Dominique Sénard, l'ex-patron de Michelin qui a pris la présidence de Renault et qui présidera du coup ce conseil de l'Alliance.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Côté capital, ça ne va rien changer ? Que Renault va rester l'actionnaire de contrôle de Nissan ou pas ?
Oui, exactement. Ça, pour l'instant, ça ne va rien changer. Cette question d'un éventuel rééquilibrage qui est voulu par les Japonais n'est pas prioritaire. Ce qui était vraiment prioritaire pour ces 3 groupes, c'était d'afficher leur bonne entente. Et franchement, c'est une prouesse d'avoir réussi à refonder l'Alliance post-Ghosn sur ces bases-là. C'est un vrai succès pour Jean-Dominique Sénard qui, par son caractère, est peut-être le plus japonais des patrons français. C'est un homme, c'est un homme de dialogue, de compromis, qui est subtil dans ses rapports humains. Il est sans doute plus zen que beaucoup de japonais d'ailleurs. Et en tout cas, il a ramené de la sérénité à un moment critique, puisque les deux constructeurs automobiles ont bouclé une année 2018 sur des résultats en baisse, preuve que leur alliance est plus nécessaire que jamais.
L'art du zen et de la réelle politique avec Nicolas Barré, l'édito Écho.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h21, Europe 1 va plus loin, consacre aujourd'hui à un anniversaire, les 30 ans du web.
Vous êtes réveillé, vous êtes déjà peut-être connecté. Parce que c'est une révolution technologique qui a changé notre quotidien. Hein, le travail, les amitiés, le boulot, peut-être que vous nous écoutez grâce à Internet. Bonjour François Geffrier.
Bonjour à tous.
Vous travaillez au service économie d'Europe 1. Internet est un sujet qui vous passionne depuis toujours. 30 ans déjà. Et on a du mal à se remémorer notre vie d'avant, avant le web.
Et souvent, le web, il est entré dans nos vies comme ceci.
Ah, je me souviens.
La petite musique du modem que vous connectiez le moins longtemps possible chez Wanadoo ou Tiscali ou chez Infony en utilisant Caramail et AltaVista et en tapant ces trois lettres WWW, World Wide Web, c'est-à-dire la toile large comme le monde, créée en 1989, donc en Suisse. Et cinq ans après, sur Europe 1, on commençait à comprendre.
Des utilisateurs d'Internet vont bientôt pouvoir se faire livrer en pianotant sur leur clavier.
Voici l'onclair de la pizza électronique. Le client entre quelques commandes obscures pour se connecter sur un serveur. La suite est plus classique puisqu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire transiter une pizza aux anchois par de la fibre optique.
Ah, la pizza électronique d'Internet sur les autoroutes de l'information. En fait, on n'avait encore rien vu.
Oui, streaming, data, navigateur, hashtag, troll, tout un vocabulaire. Les blogs et les forums avaient l'avenir devant eux. On n'avait pas encore tous ces mots de passe à retenir. Au fait, c'était comment la vie sans le web ?
On avait une 25 éditions de dictionnaires différents, c'était super compliqué. Beaucoup de recherches, c'était long.
Des recettes de cuisine ou des savoir-faire auprès de sa mère, sa grand-mère, enfin des gens de la famille qui pouvaient vous expliquer comment oser.
Le bouche à oreille, quoi. Hein. Ouais. J'ai été manger là, c'est bien, ben voilà.
Le bon coin,
ça n'existait pas pour trouver des meubles d'occasion.
On se tapait les brocantes, on allait chez Emmaüs, on allait partout, on bougeait beaucoup. On était moins couillons que maintenant, en fait. Hein.
Et c'est vrai que nos parents, ils utilisaient des cartes routières et souvent ils se disputaient, d'ailleurs souvent en voiture. C'était la catastrophe, je te disais de tourner à gauche et c'était pas ça, voilà.
C'était comment la vie sans le web ? Tiens, je lance un hashtag ce matin. La vie sans le web sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Au-delà de la nostalgie, qu'est-ce que ça représente exactement le web aujourd'hui, François ?
Eh bien, nous sommes connectés 6 heures par jour au web. Les sites les plus consultés, évidemment, Google, YouTube, Facebook. Il y a aussi 3 sites pornographiques dans le top 20. Mmh. Mais le plus impressionnant, ce sont les 60 000 milliards de dollars que pèsera le e-commerce en 2019, selon l'ONU, 3 fois le PIB des États-Unis.
Bah, là, vous nous décrivez le côté machine gigantesque de la chose, mais Internet n'a pas apporté que du bon, il faut le dire.
Oui, le propre inventeur du web, Berners-Lee, dit que sa créature a échoué à servir l'humanité comme elle aurait dû le faire. Mm-hmm. C'est vrai que ça devient parfois une machine à broyer qui génère de la haine. En France, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, sait que la loi a toujours un temps de retard.
Aujourd'hui, la directive qui régule une grande partie de ces échanges sur Internet, elle date de 2004. En 2004, j'étais encore technicien chez Club Internet, il n'y avait pas Facebook en France. On n'avait pas prévu que le web allait se transformer en un système où il y a 10 grandes plateformes qui drainent quasiment l'intégralité du trafic. Nous, on pense qu'entre le laisser-faire absolu d'un côté et le surcontrôle des États de l'autre, il peut y avoir un chemin entre les deux qui rappelle la responsabilité qu'on a. Ils l'ont bien compris et nous leur faisons bien comprendre.
Et une loi obligera les sites à faire le ménage plus vite face au contenu haineux. À côté de ça, depuis 30 ans, le web, c'est aussi un outil de démocratie utilisé lors du printemps arabe en Tunisie et en Égypte, aujourd'hui en Algérie, sans parler de la solidarité, les collectes de fonds et puis de l'accès au savoir, notamment par Wikipédia.
Est-ce qu'on peut se projeter dans 30 ans ? Il sera comment le web dans 30 ans, François ?
Bien malin, celui qui peut décrire le web de l'an 2049. On imagine que tout le monde pourra y accéder car des entreprises envoient des centaines de satellites dans l'espace pour arroser chaque centimètre carré de la planète en débit Internet. 3,5 milliards de personnes ne sont pas connectées aujourd'hui. Ça pose la question de l'environnement. Les serveurs du web émettent autant de CO2 dans le monde que tous les avions de ligne. Il y a le sujet de nos données personnelles après pas mal de scandales. Enfin, il y aura l'intelligence artificielle, révolution dans le web et bien au-delà. C'est le fonctionnement de toute machine, de toute ordinateur et de toute usine qui sera transformée.
Votre reportage était passionnant, François Geffrier, avec Clément Paulin et le service des archives d'Europe 1. Le web a 30 ans aujourd'hui ce reportage qui a fait pâlir de jalousie notre ami Anissa Mbida. Vous auriez aimé aller sur les 30 ans du web, hein, c'est votre truc.
C'est carrément mon truc, hein. J'adore cette idée.
Vous venez avec quoi dans quelques instants ?
Ah, moi, je vous ai trouvé un matériau qui est capable de mettre en sourdine des perceuses, des pots d'échappement et même des moteurs d'avion.
Ah bon, mais c'est, on peut le toucher ? C'est palpable ?
C'est quoi ? Ah, mais c'est un matériau qui met en sourdine tout ce qui provoque aujourd'hui des nuisances sonores.
Un matériau de quel...
Attendez bon, Nico, c'est bon, dépressé.
Tout de suite.
Mais bon, c'est comment ? Expliquez-moi, je comprends pas.
Il est 7h26. Il est 7h27, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour et l'innovation, c'est avec Anis Mbida, Nikos.
Êtes-vous confronté à des problèmes de nuisances sonores ? Habitez-vous près d'un aéroport, d'un périphérique, je sais pas, d'une rue bruyante ? On a peut-être une solution pour vous. Anis, ce matin, vous avez trouvé un matériau révolutionnaire qui supprime tous les bruits indésirables. Oui, mais comment ? Expliquez-moi.
Alors, ça ressemble à un beignet avec un gros trou à l'intérieur.
Un beignet avec un gros trou.
Voilà. Et donc, c'est assez extraordinaire parce qu'il est conçu dans un matériau qui bloque le bruit, mais qui laisse quand même passer l'air. Et ça, ça change tout. Parce qu'on va pouvoir prendre, par exemple, un réacteur d'avion. Ouais. Et à la sortie du réacteur, on place notre beignet avec un trou. À la sortie du réacteur. Hein.
Le beignet.
Le beignet à la sortie du réacteur. La turbine va continuer à fonctionner, mais elle sera mise en sourdine.
Mais qui est-ce qui met le beignet, pardonnez-moi ?
C'est le technicien
quand il veut mettre le en sourdine. Et c'est la même chose avec un aspirateur, un moteur de perceuse ou un pot d'échappement. Les bruits restent bloqués à la source.
C'est une matière.
Mais
fait.
L'air circule quand même.
Mais comment ça marche exactement ?
Bah en fait, dans cette matière, dans ce matériau, il y a tout un réseau de canalisations qui sont imprimées en 3D. Et elles sont organisées de façon à absorber et à capter toutes les ondes sonores.
Ah, c'est un trompe-l'œil du son en fait.
Voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à fabriquer. Hein. Il suffit d'imprimer. Ça peut être fait en plastique. Il faut juste imprimer des bonnes canalisations. Et c'est plutôt efficace puisque ça bloque jusqu'à 94%. Des bruits qui sortent. Et ça a été mis au point par des ingénieurs de l'université de Boston aux États-Unis.
D'accord.
Et évidemment, ça intéresse tous les industriels parce qu'ils vont pouvoir insonoriser leurs appareils dès la conception, dès l'usine. Hein. Ils vont pouvoir mettre la petite beignet avec un gros trou dès l'usine. Et ils vont l'imprimer simplement cette sourdine en 3D.
Merci Anissa Mbida. En tout cas, ça fait réfléchir. Vous auriez un beignet qui se mange ce matin ou un truc comme ça ?
Je l'ai déjà avalé.
On va vous en apporter un.
Je l'ai mis en sourdine, je l'ai avalé.
Merci. Bon appétit si vous êtes au petit-déj ce matin.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kalman. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Est-ce que le ciel est bruyant aujourd'hui ? Il y a du coup de tonnerre ou pas, Laurent Cabrol ?
Oui. Il est bruyant, il y a du tonnerre, c'est la giboulée façon Wikipédia, si vous voulez.
Ah
avec
bon.
À la fois des averses, du vent, nous avons de la grêle, nous avons de la neige, nous avons du granulé de glace, un petit peu tout.
Des giboulées.
C'est la giboulée, par définition. Alors, elles arrivent, pour l'instant, elles ne sont pas encore là. Elles arrivent sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, elles arrivent très bientôt et très vite sur la Sarthe et la Mayenne, c'est ce matin, avec beaucoup de vent. Et ensuite, eh bien, nous aurons de bonnes pluies dans l'après-midi avec, dans toutes ces régions. Les pluies arriveront ce soir sur la région parisienne, Champagne-Ardenne, Val-de-Loire et Poitou-Charentes, là aussi avec du vent et avec tous les ingrédients que je citais à l'instant. Enfin, en fin de journée, sud-ouest, Massif central, Dijonais, Mâconnais, Lorraine, Alsace, Franche-Comté et bassin méditerranéen, eh bien là, vous commencerez à avoir des nuages. Mais dans toutes ces régions que je viens de citer en tout dernier, c'est une journée agréable, notamment vers Toulouse, vers Marseille ou vers Lyon. Journée sympa, les températures, elles vont bien remonter. Ce matin, il fait froid. Elles vont remonter jusqu'à 13 à 21 degrés, vous voyez ?
Pas mal, de moins 3 à 21 degrés. La gamme est variée. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Nous sommes le mardi 12 mars. Il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
7h31, on est un peu en retard, Céline Kalman, mais vous êtes toujours au rendez-vous pour le journal. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous faites peut-être partie de ces Français qui, avant de dormir, consultent leur téléphone, regardent des séries. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles les Français dorment de moins en moins. C'est ce qui ressort du baromètre de Santé publique France qui a interrogé plus de 25 000 personnes. Les détails avec Mélanie Gomez.
Pour la première fois, nous dormons moins de 7 heures par nuit. Enfin, en tout cas en semaine, le temps de sommeil nocturne est aujourd'hui de 6h42 contre 7h26 le week-end. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de petits dormeurs. Ceux qui dorment moins de 6 heures par nuit, c'est le cas de 36% des adultes. Et pour cela, attention, car c'est prouvé, ils sont plus à risque d'infarctus par exemple, ou encore de développer des maladies comme le diabète ou l'obésité. Enfin, par contre, bonne nouvelle, il y aurait moins d'insomniaques. 13% des Français en souffriraient de façon chronique, mais les femmes seraient deux fois plus concernées, comme Katia, prof de biologie.
Je me réveille à peu près toutes les deux heures. C'est par à coup, je me réveille, j'ai un peu de mal à me rendormir, je me rendors, je me réveille, et puis quand je me rends compte que bon, on est près du réveil, là je me rendors plus. J'attends que le réveil sonne. Je pense que j'ai un petit stress au niveau du réveil, j'ai peur de rater mon réveil. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec ça, parce que quand je suis en vacances, j'ai moins de problèmes de sommeil.
Alors pour récupérer, malheureusement, Katia ne fait pas de sieste et elle a tort, car c'est le moyen le plus efficace. 27% des Français déclarent en faire au moins une par semaine de 50 minutes en moyenne. Une bonne attitude à développer, car la sieste a des bienfaits biologiques avérés. Elle réduit par exemple l'inflammation dans l'organisme qui causerait certaines maladies, comme le diabète.
Mélanie Gomez, Mehdine Emouch condamnée à la prison à vie pour la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. La cour d'assises a insisté sur son antisémitisme marqué. Emmanuel Macron va s'exprimer ce matin depuis Djibouti à propos de la situation en Algérie. Hier soir, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a salué la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat. L'élection prévue le mois prochain est reportée.
Et si, dans un avenir proche, les prêtres avaient le droit de se marier?
Pour la première fois dans l'église catholique française, un archevêque, celui de Poitiers, s'est prononcé pour. Monseigneur Pascal Witzner s'est exprimé sur France 3.
Il y a quelquefois une manière de voir le prêtre comme un homme qui ne serait pas un homme. Et le célibat consonne à cela, comme si la sexualité n'existait pas, comme si tout être humain n'était pas travaillé par la sexualité. Avoir des prêtres qui seraient mariés permettrait aussi de voir les prêtres comme des hommes, comme tout le monde. Certains sont célibataires, comme d'ailleurs dans la société, il n'y a pas que les prêtres qui sont célibataires. D'autres seraient mariés. Et aujourd'hui, je crois qu'une des raisons des crimes qui existent vis-à-vis d'enfants ou de femmes vient de cette conception sacrale, sacré du prêtre, la fin de la loi du célibat pour tous serait une manière aussi de nous ramener à l'humanité ordinaire.
Et je précise que la conférence des évêques de France parle d'un avis isolé. Emmanuel Macron a décidé de saisir le Conseil constitutionnel concernant la proposition de loi anti-casseurs, projet de loi qui doit être adopté définitivement aujourd'hui après le vote du Sénat. Saisir le Conseil, c'est un fait très rare. Seul François Hollande l'a fait en 2015 sur la loi renseignement. Virginie Riva.
C'est un coup politique sous forme juridique. Voilà l'analyse d'un ancien sage du Conseil constitutionnel. Avec cette saisine, Emmanuel Macron atteint selon lui deux objectifs. Couper l'herbe sous le pied des oppositions et en même temps calmer le jeu dans sa propre majorité où le texte avait crispé. 50 députés marcheurs s'étaient abstenus du jamais vu depuis le début du quinquennat. Des abstentionnistes qui auraient pu se joindre au recours qui sera également déposé par l'opposition. Là, ils peuvent s'estimer entendus par le président. Un député de la majorité l'admet, c'est finement joué. À l'Élysée, on le reconnaît, le président a bien entendu les doutes légitimes sur ce texte, même si on se défend de toute manœuvre politicienne. Seul le Conseil constitutionnel peut statuer en toute objectivité, explique-t-on. Et si jamais le texte devait être censuré, le chef de l'État pourrait se prévaloir d'avoir joué son rôle de garant des libertés publiques, torpillant ainsi les procès en autoritarisme de l'opposition.
Virginie Riva pour Europe 1.
Et ce sont les lycéens qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines, tous les vendredis, pour le climat.
Oui, Jean-Michel Blanquer propose, lui, à la place des manifestations, d'organiser un débat dans les établissements, une proposition qui arrive trop tard, selon Virgile Mouquet, lycéen de Bordeaux.
C'est fait beaucoup trop tard, ça ne s'organise pas comme ça au dernier moment, ça semble plus être une manière d'essayer de dire aux jeunes « non, allez pas manifester ». Nous, ça nous arrange pas, voilà, on va faire une petite discussion, discuter avec nos professeurs, ça va pas régler les problèmes. On sait très bien que ça va pas pousser le gouvernement à faire d'autres actions, de simples discussions comme ça. On va pas décider d'arrêter nos manifestations pour aller à ce débat. On n'est pas là pour tendre la main, je veux dire, la main de notre génération, elle a été tendue pendant des années. Ils savent quoi faire, il faut agir vite, il faut agir bien. Et le temps n'est plus au débat, il y a l'action.
Un propos recueilli par Virginie Salmen. Après le fiasco de la Ligue des Champions, les Parisiens retrouvent le terrain ce soir à Dijon en championnat, coup d'envoi 19h. Et ce sera sans les ultras qui ont décidé de boycotter le déplacement. Julien Froment.
Des joueurs conspués par leurs propres supporters dimanche au Parc des Princes. La sortie médiatique complètement ratée de Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux. Paris a du mal à tourner la page Manchester. L'entraîneur Thomas Tuchel compte sur le match de Dijon pour apaiser les tensions.
L'équipe, le staff, moi, nous avons l'occasion de montrer que nous pouvons réagir comme champions. On ne va pas gagner la Ligue des Champions cette saison, ce n'est pas possible. Mais maintenant, c'est l'occasion de prouver que nous pouvons réagir comme des champions. Ça, c'est le défi.
Même en cas de victoire, pas sûr que cela suffise, car les joueurs seront surtout attendus dimanche pour l'électrique PSG-OM. Selon nos informations, le gigantesque tifo, l'animation qui était prévue dans les tribunes, va finir à la poubelle. Et certains ultras me confirment qu'en cas de défaite, il pourrait y avoir des débordements, voire une tentative d'envahissement de la tribune présidentielle. Le club a en tout cas prévu de doubler les effectifs de police, alors qu'il n'y aura même pas de supporters marseillais présents dimanche au Parc des Princes.
Julien Froment, et coup d'envoi aujourd'hui de la campagne Une jonquille pour Curie, campagne nationale pour soutenir la lutte contre le cancer. De nombreuses opérations de collecte sont lancées. Pour faire un don, vous pouvez aussi le faire sur le site www.curie.fr.
Et dans ce studio, nous portons tous cette petite jonquille, avec évidemment Jean-Michel Apathy qui le porte avec merveille sur son veston.
Voilà, c'était
le journal de Céline Kallmann.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Tiens, Jean-Michel Apathy, justement, on parle de politique ce matin avec vous.
On parle de politique parce que Zinedine Zidane est devenu ou redevenu l'entraîneur du Real et ça dépasse largement, largement le football.
Zizou politique.
Zizou politique.
C'est vrai qu'il y avait, on parlait de Bouteflika hier et des urgents. Et quelques minutes plus tard, on regarde sur notre téléphone, Zizou revient.
Eh oui, c'est l'Algérie à la une.
L'actualité, Axel de Tarlé.
Alors moi, ce sont les Pays-Bas qui pourraient interdire l'avion pour des raisons écologiques. Alors interdire l'avion sur certaines lignes uniquement, vous allez voir.
Sur des lignes courtes, j'imagine.
Voilà, exactement.
Allez, on vous dit tout à Apathy Tarlé dans un instant sur Europe 1. Bon réveil à vous.
Il est 7h38. Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy, spécialiste de l'actualité politique, mais aussi amoureux du football. C'était hier soir à Madrid, conférence de presse de Zinedine Zidane. Coup de tonnerre. Je suis très heureux de revenir à la maison dans un accent espagnol absolument parfait, hein, Zinedine Zidane. Après 9 mois de retrait, Zizou est donc de retour dans l'arène. L'entraîneur du Real Madrid, c'est lui.
Oui, c'est lui. Alors, ce matin, l'histoire, comme souvent d'ailleurs, est très ironique parce qu'il y a deux hommes dans l'actualité. Il y a Zinedine Zidane, on vient de l'entendre, et Abdelaziz Bouteflika. Alors, entre les deux, on se dit quel point commun. Bouteflika, c'est la politique et Zidane, c'est le football. Mais il y a quelque chose qui les lie tous les deux, c'est l'Algérie et l'histoire de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, quand il était jeune, il a lutté contre la France. Il a mené une guerre, il a fait partie de ces Algériens qui ont mené une guerre contre la France pour obtenir l'indépendance de leur pays. Indépendance effective en 1962. Smaïl Zidane, le père de Zinedine Zidane, est arrivé en France en 1953. L'Algérie était encore française. Smaïl Zidane vient de la ville de Béjia, qui est une ville kabyle. Et il est venu en France en 1953 pour être ouvrier du bâtiment. Et en 1962, il est prêt à repartir en Algérie, quand le pays devient indépendant. Et quand il arrive à Marseille, il croise la route de Malika, qui est elle aussi kabyle, qui vit à Marseille. Ils sont amoureux tous les deux et ils décident de rester en France. Et 10 ans après, 1972, c'est la naissance du petit Zinedine. Et Zinedine Zidane, dès sa naissance, aura la double nationalité franco-algérienne.
Automatiquement.
Bien sûr, parce que après cette histoire douloureuse, la France et l'Algérie ont conclu un accord qui fait que quand un enfant naît en France de parents algériens, il a les deux nationalités. Et puis, le petit Zinedine va devenir le grand Zidane. 108 sélections en équipe de France, 25 fois capitaine de l'équipe de France. Et puis, il y a, bien sûr, l'indépassable 13 juillet 1998. La France devient championne du monde de football. Eugène Saccomanno était au micro d'Europe 1 quand, au Stade de France, Zinedine Zidane a marqué son premier but.
C'est un corner que va tirer Emmanuel Petit. Attention, Zidane, but ! But ! Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là?
C'est formidable de réécouter Eugène Saccomanno. La colonisation de l'Algérie par la France a eu lieu en 1830. Les contemporains de la colonisation ont tout de suite compris que c'était une erreur, en 1830, de faire ce que faisait Charles X, qui a fait ça pour la colonisation de l'Algérie pour de très mauvaises raisons. Et puis c'est devenu un drame avec la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Mais si la colonisation n'avait pas existé, Smaïl Zidane ne serait jamais venu en France. Et Zinedine Zidane n'aurait jamais été français. C'est la preuve que, quand ils font l'histoire, les hommes ne savent pas toujours ce qu'ils font. Quelquefois, ils font des mauvaises choses. Et puis, au milieu de ces mauvaises choses, il y en a de très belles.
Et ben alors, on ne fait pas l'histoire nécessairement, mais j'ai une pensée ce matin pour ceux qui partent avec une valise, qui sont partis, ces papas, ces jeunes hommes qui sont devenus parents et grands-parents en France et qui ont donné des Zidane ou d'autres,
bien
et qui sont tous des enfants de la République, qui viennent d'Algérie, du Portugal, d'Espagne, d'Italie. Voilà, il y a des Arméniens, il y a des Grecs, on est tous fiers d'être Français.
Et c'est
merci.
Un enrichissement pour la France parfois.
Voilà. Jean-Michel Apathy, Axel de Tarlé, on va rester en Europe, sur le vieux continent. On a traversé la Méditerranée pour parler des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui commencent à interdire l'avion pour des raisons écologiques.
Oui, c'est incroyable. C'est une proposition de loi des écologistes qui a recueilli le soutien d'une majorité des députés au Parlement des Pays-Bas. Donc, il s'agit d'interdire l'avion entre Amsterdam et Bruxelles. Explication, il existe des trains qui mettent à peine 1h30. Dès lors, pourquoi prendre l'avion qui, au final, prend plus de temps, on sait très bien, mais qui surtout est 10 à 20 fois plus polluant que le train. Et donc, les écologistes proposent, et ils sont soutenus, d'interdire l'avion entre ces deux villes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe 5 vols entre Amsterdam et Bruxelles. Et donc, cette proposition de loi trouve un large écho au-delà même de la Hollande, puisque en Belgique, dans la foulée, certains proposent également d'interdire l'avion entre Bruxelles et Paris, là, pour exactement les mêmes raisons, il existe le Thalys, le TGV, à peine 1h30.
Non mais voilà. Qui prend l'avion, c'est plus long entre Paris et Bruxelles.
Alors il y a toujours une compagnie belge, Bruxelles Airlines, qui propose des vols entre Paris et Bruxelles. Alors vous avez raison, Air France a arrêté les vols entre Paris et Bruxelles. Il faut savoir qu'en France, Air France a pas mal rendu les armes, ils ont abandonné pas mal de lignes. Par exemple, il n'y a plus d'avions entre Paris et Lille, évidemment, là le TGV met 1 heure. Et le TGV Est également a eu la peau de l'avion entre Paris et Strasbourg. Mais l'avion résiste sur certaines lignes, vous avez toujours des avions pour aller de Paris-Bordeaux, alors que c'est 2 heures, des avions Paris-Lyon et même des avions Paris-Rennes. Alors, il y en a très très peu. La part de marché de l'avion sur Paris-Lyon, c'est à peine 6%. Mais l'avion conserve encore 2 avantages.
Allez-y.
Par rapport au train, même sur des très courtes durées. Premier avantage, 1, pour les vols en correspondance, si vous devez changer d'avion, c'est quand même plus pratique d'arriver dans un aéroport que d'arriver dans une gare.
D'accord.
Et le deuxième avantage, alors il est malheureux celui-là, c'est que l'avion est parfois moins cher que le train. Pourquoi ? On le sait, le kérosène n'est pas taxé nulle part dans le monde, ce qui fait que les compagnies peuvent proposer des prix imbattables, des avions à 10-15 euros. C'est d'ailleurs, vous savez, l'une des propositions qui remonte du grand débat, que le kérosène soit taxé comme tous les autres carburants. Écoutez, c'est là une idée forte et qui monte, et tant mieux, que ce soit par la loi aux Pays-Bas ou par la taxe en France, il faut quand même mettre fin à cette préférence absurde pour l'avion quand vous avez des trains qui sont à la fois plus rapides et plus écologique. Par passager, c'est 10 à 20 fois moins d'émissions de CO2.
Vous êtes train ou avion, chers auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Europe 1 ce matin. C'était le Zoom Echo, présenté par Axel de Tarlé.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Alors, on parlait de l'Algérie il y a quelques instants avec Jean-Michel Apathy. On va revenir sur l'actualité de ce pays proche de la France, important pour la France, pour la communauté algérienne aussi de France, qui est sous pression populaire. Et Abdelaziz Bouteflika renonce donc à un cinquième mandat après 20 ans de règne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Où va l'Algérie ? Je vais poser la question à mon invité dans quelques instants, le journaliste franco-algérien Mohamed Sifaoui. À tout de suite.
Il est 7h46, excellent réveil sur Europe 1. Et le 7h48, Nico Saliagas, retour sur les événements en Algérie avec l'annonce du président Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat et de reporter l'élection présidentielle. Vous recevez ce matin le spécialiste du monde arabo-musulman et auteur de « Où va l'Algérie ?» aux éditions du CERF, Mohamed Sifaoui.
Bonjour Mohamed Sifaoui.
Bonjour.
C'est un renoncement ou c'est une manœuvre politique de la part du président Bouteflika ?
Ah, c'est la continuité d'un processus de mascarade qui a été mis en place par le pouvoir algérien depuis 1962. Et à chaque fois où le peuple algérien exprime une volonté de changement, on lui trouve un subterfuge. C'est un énième subterfuge qui est très facile à voir.
Expliquez-nous pourquoi il y a une mascarade, pourquoi ce terme ?
Il y a quelques jours, ça n'a échappé à personne, le peuple algérien, notamment la jeunesse, réclamait un changement radical, c'est-à-dire l'instauration de la démocratie. Bouteflika dit renoncer à un cinquième mandat, mais il continuera d'être président. Il se donne un délai très long, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans un cinquième mandat sans élection. Et en l'occurrence, c'est la manière d'installer la dictature. Parce que la dictature, c'est le contraire de la démocratie.
Mais il promet quand même un processus démocratique.
Oui, il promet. Les promesses de Bouteflika n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mmh. En 2014, Bouteflika, quelques jours avant l'élection, déjà une autre mascarade, puisqu'il était malade et incapable d'assumer ses fonctions présidentielles, avait annoncé, je cite dans le texte, une fois président, donc en 2014, je modifie la Constitution pour remettre le flambeau à la jeunesse. Cinq ans plus tard, il est encore dans les promesses de modification de la Constitution. Il a promis dans le calendrier suivant, que je cite, fin 2019, projet de Constitution, donc fin 2019, il sera toujours là. Courant 2020, donc, élaboration et rédaction de cette constitution définitive qu'il faudra faire approuver soit par référendum, soit par les deux assemblées. Donc, encore 6 mois, 8 mois, etc. Et ensuite, un calendrier éventuellement électoral. Donc, on est parti à une présidence à vie, comme je ne cesse de le répéter.
Donc, pour vous, rien ne va changer tout de suite, en tous les cas. Que signifient ces mouvements de liesse? Que signifie ce besoin de la jeunesse de manifester, de s'exprimer, et d'ailleurs qui n'a pas été vraiment réprimé? Il y a eu quelques épisodes, mais pas aussi grave que cela aurait pu être. Qu'est-ce que ça signifie ?
Il y a un ras-le-bol dans la société algérienne depuis longtemps. La société algérienne a été très prudente parce qu'elle a vécu et elle a subi les années noires des années 90, le terrorisme. Donc, elle a fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup plus que ses dirigeants. Et elle a trouvé le mode opératoire. C'est dire, on va manifester pacifiquement, on va rien casser, au contraire, on va même nettoyer après les manifestations. Et en plus, c'est une jeunesse. Je veux dire, c'est pas des barbus comme dans les années 80 qui étaient tout croc dehors réclamant l'instauration de la charia.
C'est des jeunes qui sont connectés sur Internet, qui sont sur les réseaux sociaux. Absolument. Et qui s'expriment.
Absolument. Et le caractère pacifique a piégé le pouvoir. Donc, il lui fallait trouver une solution. La solution, je répète, ça a été la mise en place de cette mascarade qui consiste à faire croire qu'il y aurait un changement. Mais en réalité, qu'est-ce qui a changé? Abdelaziz Bouteflika, l'année prochaine, sera toujours là, s'il ne décède pas entre-temps. Son ministre de l'Intérieur est devenu Premier ministre. Le chef d'état-major de l'armée continue d'être chef d'état-major de l'armée. Et le chef des services de renseignement continue d'être chef des services de renseignement.
Ils ont promis une conférence nationale avec Alakhtar Brahimi. Qui est-il exactement? C'est un diplomate.
Oui, c'est un diplomate, c'est un homme du sérail. Mais encore une fois, il fait partie de ces octogénaires, de ces septuagénaires dont la jeunesse algérienne ne veut plus. L'Algérie, c'est une moyenne d'âge de 27 ans. Et ce sont des gens qui étaient là déjà en 1962, qui sont toujours là, qui, à des postes divers et variés, continuent de veiller aux destinées de l'Algérie avec médiocrité. Parce que regardez les résultats. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, les résultats sont catastrophiques, puisque le rêve premier des Algériens, il y a encore quelques mois, c'est de partir à l'étranger. Et la diaspora qui s'est constituée au fil des années, c'est pas parce que les Algériens n'aiment pas leur pays, c'est parce que la plupart, y compris les plus diplômés, les médecins, regardez, il y a 4000 médecins algériens, je ne parle pas des franco-algériens, 4000 médecins algériens qui exercent dans les hôpitaux français, parce que toute cette population en a ras-le-bol et elle a quitté par désespoir et absence de perspective.
Donc l'Algérie, c'est une jeunesse qui n'a pas connu la guerre d'indépendance, qui n'a connu finalement qu'une famille au pouvoir. Est-ce que cette jeunesse peut se calmer? Est-ce que après l'annonce de Bouteflika, ça veut dire qu'elle pourrait ne plus redescendre dans la rue?
Je ne le crois pas. Dès hier soir, alors évidemment, le régime a fait descendre sa clientèle pour klaxonner et faire un peu de bruit. Il y a eu des attitudes mimétiques des gamins qui étaient aussi dans la rue parce qu'ils ne comprenaient pas trop les enjeux et les gens n'ont pas eu le temps d'analyser ce qui se faisait. Et un peu à cause des journalistes et locaux proches du pouvoir, et je dirais même parfois à cause de certains commentateurs français qui sont passés à côté de la plaque, je le dis très calmement, parce que ne pas voir la supercherie qui se dessine, c'est quand même assez incroyable.
Ce matin, vous l'exprimez, quelles conséquences, dernière question, pour la France d'abord, et puis pour les Algériens de France?
La France, sur le plan politique, est piégée parce qu'elle ne sait plus quoi dire, quelle attitude adopter. Mais moi, je répète très souvent la chose suivante, notamment aux responsables politiques. Aujourd'hui, et dans le contexte actuel où on ne sait pas vers quoi ou vers où les choses vont aller, je conseille vraiment, si on veut être l'ami de l'Algérie, d'être ami plutôt du peuple algérien et non pas amis d'autocrates qui créent les conditions du malheur du peuple algérien.
Merci d'avoir été notre invité. Merci ce matin vous. Dans la matinale d'Europe 1, Mohamed Sifaoui. Vous publiez « Où va l'Algérie et les conséquences pour la France » aux éditions du Cerf.
Merci. Nico Saliagas sur Europe 1.
À ne pas manquer dans le journal de 8h, vote crucial aujourd'hui à Londres au sujet du Brexit. Et dans une minute, la petite histoire avec Jean-Philippe Ballas. Je ne sais pas ce qu'il nous a réservé ce matin, Céline.
Non, je suis sûre que ça va être très bien.
C'est pas comme un canular, hein, c'est l'incroyable épopée d'un plongeur avalé par une baleine. On se croirait presque dans Pinocchio.
À tout de suite sur Europe 1 avec Nico Saliagas, il est 7h54. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi, tous les jours avant 8h avec vous, Jean-Philippe Ballas, et ce matin, la mésaventure d'un plongeur dans le ventre d'une baleine.
Bienvenue les amis au large de l'Afrique du Sud. Vous êtes dans l'eau en compagnie de Rainer, plongeur expérimenté de 51 ans. Et avec son équipe, vous êtes parti filmer quelques dauphins, requins au milieu des bancs de sardines. C'est sûr, ça fera de belles images. En plus, je vous ai mis la musique du Grand Bleu. Oui, je sais, on met toujours la musique du Grand Bleu. Quand soudain, là, derrière lui, Rainer sent quelque chose, une masse qui surgit des profondeurs. En une fraction de seconde, il est comme saisi par la taille, englouti. Le plongeur comprend vite la situation rarissime. Il vient d'être avalé par une baleine. Oui, est-il besoin de préciser qu'il fait nuit noire à l'intérieur du cétacé et que la situation est pour le moins critique. Mais le plongeur n'a pas le temps d'avoir peur. C'est l'instinct qui lui dit de retenir son souffle. Il sait que la baleine va replonger au fond de l'océan et qu'elle va peut-être relâcher la pression. C'est précisément ce qu'elle fait. Rainer a pu se dégager à temps et le voici maintenant à la surface. Soulagement de ses partenaires qui ne voyaient plus que le bout de ses palmes, mais qui ont eu le temps de prendre quelques photos. Elles font depuis le tour du monde avec un décryptage nécessaire. Non, Rainer n'a pas été attaqué par la baleine. D'ailleurs, elle a dû être aussi surprise que lui. Les baleines ne mangent pas de plongeurs. Et oui, Rainer aurait pu se faire très mal. Il s'en sort indemne avec le souvenir, dit-il, d'une rencontre intéressante. Et vous savez quoi ? Même si on a un peu peur, on l'envie quand même.
Ça change une vie. Avoir été avalé une fois dans sa vie par une baleine, vous rendez compte ? Merci pour cette jolie histoire, Jean-Philippe Ballas.
Et merci à Romain Cosard pour la production. Hein.
Éric Serra pour la musique. Le Grand Bleu, évidemment. Un classique inoubliable.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabral-Nicos.
Et avec Rainer. Oh, une baleine. Vite, je me cache à l'eau pour avoir le dauphin.
Oh, bien, bien. Bravo, bravo, patron. Bon, Lolo.
Je vais vous proposer un petit découpage. Si vous vraiment voulez du soleil, déjà, tenez une information. Si vous devez prévoir une sortie ce samedi ou dimanche, choisissez samedi, ce sera vraiment printanier. Dimanche, ça reviendra automnal. D'accord. Revenons à notre journée d'aujourd'hui, avec sur le sud-ouest, le Massif central, le Dijonais, le Mâconnais, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et le bassin méditerranéen. Un temps agréable, en dépit d'un voile en fin de journée, mais ce sera très très agréable. Poitou-Charentes, Val-de-Loire, région parisienne, Champagne-Ardenne, de plus en plus nuageux. Là, c'est moins sympa. L'après-midi commence par devenir de plus en plus, disons, menaçante et les vraies pluies en fin de journée, notamment sur Paris, vers entre 18 et 20 heures. Enfin, en Bretagne, Normandie, Picardie Nord, sur la Loire-Atlantique, la Sarthe et la Mayenne, nous sommes dans un secteur où les nuages sont très nombreux, avec des vitesses de vent de 60 à 80, car le vent va souffler très fortement aujourd'hui sur la France, et nous aurons des valeurs de 10 à Lille, 12 à Caen, 13 à Paris aujourd'hui, 14 à Besançon, 17 à Clermont-Ferrand et 19 à Toulouse.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes le mardi 12 mars. Bon réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La dernière chance de Theresa May, de nouvelles garanties obtenues à la dernière minute. La première ministre britannique pense cette fois pouvoir faire adopter son accord de Brexit. Le vote, c'est aujourd'hui. Pour tout comprendre, nous serons en direct avec notre correspondante à Bruxelles dès le début de ce journal. Une page d'histoire avec un grand H est-elle en train de se tourner en Algérie ? Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter pour un cinquième mandat, mais il reste en place. Est-ce une ruse du pouvoir ou un vrai changement ? Le peuple algérien se méfie. Et enfin, connaissez-vous la Joconde nue ? C'est un dessin exposé au château de Chantilly et c'est surtout un mystère. Il pourrait bien être de la main de Léonard de Vinci. Enquête à la fin de ce journal.
8h12, l'analyse de Vincent Hervouet, à ne pas manquer sur la situation en Algérie, dont vous parliez il y a quelques instants, mon cher David. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra Philippe de Villiers, qui est l'auteur d'un brûlot sur la fondation de l'Union Européenne, intitulé « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Vous vous rendez compte ? C'est long. Promesse, à tout de suite.
Europe 1.
C'est ce que l'on appelle un rebondissement de dernière minute, des garanties obtenues en pleine nuit. Theresa May a décroché un léger assouplissement du système permettant d'empêcher le retour d'une frontière avec l'Irlande. C'est donc un nouveau texte qu'elle va soumettre aujourd'hui au vote des députés. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour David.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Isabelle, expliquez-nous quelles sont ces nouveautés concédées par les Européens et surtout, est-ce qu'elles suffiront à convaincre les parlementaires britanniques ?
Bon, en tout cas, Theresa May pourra vraiment dire qu'elle s'est battue jusqu'à la dernière minute. Cette nuit, auprès des Européens, elle est venue chercher des gages pour rassurer les partisans du Brexit. Parce que eux, ils ont peur qu'à cause de l'Irlande, le Royaume-Uni ne sorte pas vraiment, qu'il soit piégé dans un entre-deux, dans l'union douanière qui les empêche de conclure des accords de libre-échange. Alors cette nuit, les 27 ont promis de tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Et Theresa May a obtenu qu'on détaille un dispositif qui permettra à Londres de déposer un recours, si ça l'est quand même. C'était absolument vital pour la première ministre d'arracher quelque chose aux 27. Elle ne pouvait pas se présenter devant son Parlement tout à l'heure avec exactement le même texte que celui qui a été balayé à la mi-janvier. C'est pour ça qu'elle a fait un aller-retour express à Strasbourg hier soir. Est-ce que ça va suffire pour lui assurer une majorité aux communes ? Jean-Claude Juncker espère que oui. Il lance un appel aux élus. Il faut saisir cette deuxième chance. Il n'y en aura pas de troisième, dit le président de la Commission. Mais en coulisses, les Européens restent très très prudents. Ils se préparent à tout.
Merci à vous Isabelle Horry. Vous étiez en direct de Bruxelles. Merci pour ces précisions.
L'actualité internationale chez nos voisins en Algérie, sommes-nous en train de vivre un printemps politique ?
En tout cas, les choses bougent. Abdelaziz Bouteflika ne briguera pas un cinquième mandat. Les élections qui devaient se tenir le 18 avril sont repoussées. Le gouvernement est remanié, mais le président reste en place. Les rues d'Alger se sont immédiatement remplies hier soir avec concerts de klaxons et expressions de joie. Mais l'euphorie a très vite laissé place au doute. Écoutez ces quelques réactions recueillies par notre correspondant Nour Chahine.
On est là pour fêter une première victoire. Mais attention, il faut rester vigilant. C'est pas encore fini.
C'est une mafia qui est derrière, qui essaye de manipuler le peuple et qui pense que ce peuple-là est assez idiot pour croire à toutes leurs magouilles parce que le combat, il vient à peine de commencer.
Et c'est intéressant, de l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille, les Français d'origine algérienne expriment la même prudence. Écoutez.
Le problème, c'est pas Bouteflika, c'est le régime en place. C'est tout un système qu'il faut changer.
C'est une manœuvre, ben oui. Il reste là. Sauf qu'il saute le scrutin, il n'y a plus de scrutin. Donc là, on prolonge. Pour combien de temps, c'est pas.
Réaction recueillie par Stéphane Frangy pour Europe 1. La France a salué la décision d'Abdelaziz Bouteflika. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a exprimé l'espoir d'une nouvelle dynamique pour rénover le système politique algérien.
Le président de la République est en voyage officiel en Afrique. Est-ce qu'il s'est exprimé sur la question ?
Non, mais il va le faire. Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse dans 45 minutes à Djibouti. Première étape de cette tournée africaine qui passera par l'Éthiopie et le Kenya, avec le chef de l'État pour Europe 1, c'est Jean-Rémy Baudeau. Jean-Rémy, l'enjeu de cette tournée est économique. Le précaré africain de la France est aujourd'hui la cible des ambitions de la Chine. Et c'est à cette concurrence, Jean-Rémy, qu'Emmanuel Macron a l'intention de s'attaquer ?
Oui David, et c'est notamment pour cela que l'Élysée le répète, c'est la première fois qu'un président français va consacrer autant de temps à cette région. En toile de fond de cette visite, il y a cette donnée que toute la délégation a en tête, le poids que la Chine a désormais en Afrique. La Chine, premier partenaire commercial du continent, alors que la France, partenaire historique, est tombée depuis à la sixième place. Pour les Chinois, on parle là d'influence diplomatique et stratégique. Ils ont aussi ouvert une base militaire à Djibouti en 2017. Ils sont particulièrement présents dans l'économie éthiopienne et kényane où Pékin finance de nombreuses infrastructures. C'est une nouvelle route de la soie, disent certains. C'est donc pour tenter de peser face à la Chine-Afrique que le président Macron est ici dans la région et qu'il multiplie les voyages sur le continent. L'enjeu est toujours de nouer des partenariats dans l'éducation ou la culture. Mais rappelons qu'il est surtout accompagné d'une cinquantaine de patrons. L'Élysée promet 3 milliards d'euros de contrats pour les entreprises tricolores sur ce déplacement.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 depuis Djibouti. Les conséquences du crash du Boeing d'Ethiopian Airlines, Singapour a annoncé cette nuit l'interdiction du survol de son espace aérien par les modèles 737 MAX. L'aéroport de Singapour est un hub majeur du transport aérien en Asie. Et puis, cette information qui vient de nous arriver, le secteur privé en France a enregistré une progression de l'emploi salarié, plus 0,8% sur l'année 2018. Ce sont les chiffres définitifs de l'INSEE, c'est-à-dire qu'il y a eu plus 160 300 emplois créés dans le secteur privé cette année.
La loi anti-casseurs sera définitivement adoptée aujourd'hui.
Oui, puisque les sénateurs ont annoncé qu'ils la voteraient conforme au texte des députés. Elle passera ensuite au Conseil constitutionnel qu'Emmanuel Macron a lui-même saisi. En attendant, la police a créé une cellule spéciale anti-casseurs, des enquêteurs qui ont pour mission de scruter toutes les vidéos à leur disposition pour identifier les malfaiteurs. Cette équipe est basée à Lyon. C'était l'objet de votre chronique. Où êtes-vous ce matin ? Une exclusivité Europe 1. Ces policiers ne s'expriment jamais. Écoutez l'un d'eux en plein travail, extrait recueilli par Carole Ferry.
Là, on a un exemple. On a une scène de 40 minutes en tout où de nombreuses personnes dégradent le mobilier urbain, caillassent la police et démontent des chantiers en cours le long de l'autoroute à Lyon. Donc là, vous voyez sur cette image donc le personnage avec la capuche jaune. On le voit jeter un caillou sur les forces de l'ordre qui sont à 15 mètres. Donc en revisionnant ces images au ralenti, en image par image, ça permet de laisser apparaître son visage à l'écran. Et avec le logiciel notamment de reconnaissance faciale qu'on a au niveau de la police, ça met un nom sur cette photo-là.
Témoignage recueilli au micro Europe 1 de Carole Ferry.
Gilets jaunes, grand débat Algérie sur tous les sujets d'actualité. Invité exceptionnel d'Europe 1 ce vendredi 15 mars dans la matinale entre 7h30 et 9h. Le Premier ministre Édouard Philippe, il répondra à toutes nos questions matinales spéciales en direct et en public du studio Belmar d'Europa.
Prison à vie pour le terroriste français Mehdi Nemmouche. La cour d'assises de Bruxelles l'a condamné à la perpétuité pour les 4 assassinats perpétrés en 2014 au musée juif de la capitale belge.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, c'est le stress pour nos jeunes. Il reste 2 jours aux lycéens de terminale pour saisir leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Reportage édifiant dans quelques instants, tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
Le journal avec David Doucan, plus que 2 jours pour que les lycéens saisissent leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.
Oui, et cela ne va jamais sans une petite dose de stress. Il s'agit de décider vers quelles études on veut s'orienter. Pas toujours évident lorsque l'on a 17 ou 18 ans. Mais il existe des centres d'information et d'orientation pour aider les jeunes, y compris certains bacheliers qui n'ont pas été satisfaits de leur choix l'année dernière. Reportage Théo Manval.
Il a beau avoir eu son bac l'an passé, Lars, 18 ans, est de retour dans le bureau de la conseillère d'orientation. Retour aussi sur la plateforme Parcoursup, le cursus dans lequel on l'avait orienté ne lui allait pas du tout.
Je voulais devenir web designer, j'avais vraiment une idée concrète de ce que je voulais faire. Et au final, je me suis retrouvé en communication, espérant peut-être que ça pouvait ressembler à mon domaine. Mais dès le début de l'année, ça ne me correspondait pas.
Alors à 2 jours de la date limite, la conseillère de l'éducation nationale, Coraline, aide à affiner les choix.
Très bien, donc on va peut-être regarder votre dossier.
Comme l'an passé, les élèves ont 10 vœux à formuler qu'ils n'ont pas besoin de classer par ordre de préférence.
On peut les accompagner dans leur lettre de motivation, réfléchir à leurs angoisses. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils réfléchissent tout de même à ce qu'ils préfèrent. Ça va être la prochaine étape, parce que quand ils auront les résultats, ils peuvent avoir plusieurs réponses positives et dans ce moment-là, ils doivent prendre leur décision.
Décision qui interviendra à partir de la mi-mai, lorsque tomberont ces résultats d'admission dans les établissements du supérieur. Et nouveauté cette année, tout devra être bouclé avant la fin juillet pour éviter le stress des réponses qui restent en suspens jusqu'à la rentrée du mois de septembre.
Théo Manval pour Europe 1.
Cher David, vous nous aviez promis de résoudre un mystère pour conclure ce journal. Alors allez-y, c'est le moment.
Nous allons essayer. Figurez-vous que des scientifiques ont utilisé rayons UV, infrarouges, lumière rasante, microscope, l'objet de leurs investigations. C'est un dessin, une Joconde nue exposée au château de Chantilly dans l'Oise. A-t-elle été créée de la main du maître lui-même ? J'ai nommé le génie de la Renaissance, Léonard de Vinci. C'est une enquête que nous raconte Diane Chenouda.
Elle a le même sourire mystérieux que la Joconde, la même pose, mains croisées, mais seins nus. C'est un dessin au charbon, pas une peinture, mais presque aussi grand que le portrait de Mona Lisa. Mathieu Deldic, conservateur au musée de Chantilly.
Vous avez un modèle tourné 3/4 qui nous regarde fixement en esquissant un sourire, comme la Joconde du Louvre.
Un dessin exécuté au même moment que la Joconde, comme l'ont révélé les analyses, et avec ses passages d'ombre à la lumière qui estompent les contours, cette technique chère à Léonard de Vinci. Mais la découverte la plus sensationnelle, cette Joconde nue a été dessinée par un gaucher.
Grâce à l'analyse des hachures qu'on retrouve un peu partout sur le dessin, on voit que c'est un artiste gaucher qui a tracé ce dessin. Et vous savez que Léonard de Vinci était gaucher. Alors il y a un autre élève dans son atelier talentueux lui aussi qui est gaucher. Donc évidemment ça ouvre le champ des possibles. Mais on est là devant un élément très important pour s'approcher du maître.
Une certitude, ce dessin a été créé dans l'atelier de Léonard de Vinci et peut-être de la main de Vinci lui-même.
Diane Chenouda pour Europe 1.
Bon, ça laisse pas mal de possibilités, c'est pas une confirmation.
Oui, mais quand même, un gaucher dans l'atelier du maître, le maître était gaucher, un seul élève gaucher, bon, c'est intéressant.
Et donc les gauchers sont des génies, c'est ce qu'on appelle un sophisme.
Vous êtes gaucher
Non,
merci. Alors demain soir, passons au football. Lyon jouera son 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Barcelone. Il y avait eu 0-0 à l'aller. Le match sera à suivre en intégralité sur Europe 1 et vous pourrez également venir le voir sur écran géant dans notre studio Belmar. Pour cela, il suffit de vous inscrire via le club Europe 1 sur notre site internet.
David Doucan sera là pour vous accueillir.
Oui, volontiers.
Un petit apéritif sur la totale. C'était le journal de 8h. Merci David.
À demain.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à présent, l'actualité internationale avec Vincent Hervouet.
Bonjour Monsieur Hervouet.
Bonjour Nico.
Écoutez
bonjour
bien, Céline, c'était hier soir dans les rues d'Alger. Écoutez bien. Scène de liesse, scène de joie. Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter à la présidentielle en Algérie. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ben là, on entend la rue qui fête sa victoire, hein. Klaxon et youyou, la révolution est pacifique. Et la foule sentimentale, on peut l'avoir au sentiment. C'est un adroit tour de passe-passe qui a été mis en scène. L'agence officielle algérienne a annoncé que le président Bouteflika renonçait à un cinquième mandat. Ouais. Et les Algériens ont compris qu'il renonçait à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Eh bien, c'est exactement le contraire. Les Algériens ne voulaient pas de Bouteflika candidat à la présidentielle, alors il annule la présidentielle. On peut se demander de quel droit. La Constitution ne lui donne pas ce pouvoir. On croyait donc applaudir une révolution et en fait, on s'incline devant un coup de force qui a réussi.
Et alors, on ne peut rien cacher, il y a ces images. Avec la télévision d'État qui diffuse des images du président revenu de Suisse.
Ben, il y avait de quoi serrer le cœur, même d'un sans-culotte qui rêve de dégager tout le système. Abdelaziz Bouteflika apparaît livide, muet, hagard, dans une pièce qui ressemble à un salon mortuaire rempli de bouquets comme s'il fallait masquer l'odeur du désinfectant. Quel acteur, c'est Molière mourant sur scène. Et le message subliminal, c'est qu'il partira, mais les pieds devant. Pas de valise, un cercueil. Cloué dans son fauteuil, le président algérien reçoit le Premier ministre Ouyaïa. Il était conspué dans les cortèges, il est sacrifié. Les manifestants ne seront pas descendus dans la rue pour rien. Entre ensuite en scène un officier bedonnant, c'est le chef d'état-major. On lui prête un appétit gargantuesque pour les biens de ce monde. En tout cas, il a fait des réserves pour l'avenir. Il y a 15 jours, le général Gaïd Salah menaçait ceux qui veulent ramener l'Algérie aux années de braise. Désormais, il bénit l'armée et le peuple qui partagent les mêmes valeurs. On l'écoute et on se dit, voilà un officier qui sait retourner sa vareuse. Eh bien, on se trompe. Ahmed Gaïd Salah campe dans le statu quo. L'armée mais laisse Bouteflika et son clan manœuvrer. Pourquoi en effet réclamer une élection dont ni le peuple ni le président ne veulent?
Mais la présidentielle du 18 avril, en fait, est tout simplement reportée.
Oui, elle aura lieu un jour. La disparition d'Abdelaziz Bouteflika aussi, mektoub. En attendant, il compte se maintenir jusqu'à l'élection de son successeur, selon une nouvelle constitution à adopter en suivant les conclusions de la conférence nationale inclusive qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Abracadabra, Abdelaziz Bouteflika vient de prolonger son mandat d'un ou deux ans supplémentaires. Alors normalement, il aurait dû partir après deux mandats. En 2009, il a amendé la Constitution pour mieux passer le relais à une nouvelle génération. Et en 2014, après son AVC, c'était pour organiser la transition. En 2019, kiff-kiff. Les hommes politiques manquent en général d'imagination. Ils répètent toujours ce qui a marché. Les régimes aussi. En 91, le régime algérien avait suspendu les élections entre les deux tours de peur que les islamistes l'emportent. Et bien hier soir, il a recommencé pour éviter d'être emporté par un peuple qui n'en peut plus d'attendre des jours meilleurs.
Le point de vue international avec vous, Vincent Hervouet, tous les jours sur
Europe 1. Bonne journée à tous.
À vous aussi.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Marin est dans le studio.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Pétillante et percutante. Vous recevez qui ce matin?
Eh bien écoutez, c'est un retraité de la politique qui fait campagne à sa manière à deux mois des élections européennes. Il publie une enquête à charge sur l'histoire de la construction de l'Union. Philippe Devilliers sera mon invité.
À tout de suite.
Il est 8h16, très bon réveil sur Europe 1. Il est 8h18, Nico Saliagas.
Le président du Mouvement pour la France, Philippe Devilliers. Votre invité, Audrey Crespo-Marin.
Bonjour Philippe Devilliers.
Bonjour.
Abdelaziz Bouteflika renonce finalement à briguer un cinquième mandat. Vous croyez que l'Algérie soit sur le chemin d'une transition démocratique?
Écoutez, alors là, on entend tout depuis ce matin.
tout et son contraire. Donc il faut être très prudent. Je dirais simplement qu'il y a deux incertitudes qui pèsent sur l'avenir de notre propre pays, parce que l'Algérie est tout près de nous, de chez nous, à la fois physiquement et affectivement. Le premier risque, c'est l'embuscade des islamistes qui guettent, comme dans tout printemps arabe. Et puis le deuxième problème, c'est la déferlante migratoire qui pourrait survenir en cas de trouble.
À part ça, Philippe de Villiers, êtes-vous vraiment sûr d'avoir pris votre retraite politique ?
Ah oui, tout à fait.
Sûr. À 2 mois et demi des européennes, vous publiez chez Fayard une enquête à charge sur l'histoire de la construction européenne. Le titre, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Vous faites un peu campagne à votre manière.
Non, enfin, campagne, disons la vérité, campagne pour la vérité.
À 2 mois et demi des élections.
Ben oui, parce que ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents... archives déclassifiées.
Secret défense.
Sur l'histoire, secret défense, sur l'histoire de la construction européenne. Et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit. Et que le projet, Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça, c'était une imposture.
Alors, vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal que vous présentez ainsi. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne. Robert Schuman, l'ancien pétainiste. Jean Monnet, l'agent de la CIA. Votre méthode, c'est de chercher les zones d'ombre dans la biographie de ces pères de l'Europe pour délégitimer l'Union européenne.
Non, c'est pas du tout ma méthode. Ma méthode, je suis tombé par hasard sur une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, où le président de la Chase Manhattan, qui est un homme des services secrets, donc de la CIA, dit « On est heureux de vous avoir comme déposant et comme bénéficiaire. » Bon, cette lettre, je la publie, et j'ai tiré sur ce fil-là. Et en remontant, j'ai constaté qu'il y avait des versements secrets de dollars venant des milieux de la CIA à Schuman et à Monnet pour des opérations d'influence, c'était la contrepartie, au service des intérêts américains. Et là, je me suis dit, on nous a menti.
Alors là, on vous répond qu'à l'époque, effectivement, il y a eu le plan Marshall, qu'on sait tous que les États-Unis ont financé cette Europe pour qu'elle soit construite, qu'elle soit solide. Oui. Qu'à l'époque, il y avait les nazis, qu'ensuite il y a eu les communistes et que finalement, l'influence américaine, on en avait besoin.
Ah oui, c'est drôle comme les journalistes aujourd'hui disent « Ah là là, pas d'ingérence étrangère pour aujourd'hui, mais pour hier, on ne pouvait pas faire autrement. » Alors moi, je vais vous répondre. Ce que j'ai découvert, c'est que l'Europe est une création américaine. L'Amérique s'est servie de la guerre froide comme justification pour configurer une Europe à sa main, c'est-à-dire, je cite, une commission exécutive, non pas interétatique, supraétatique, mais hors des États, pour pouvoir la tenir en main, une gouvernance acéphale avec une architecture post-politique. Mais c'est ça qu'il voulait faire.
Aujourd'hui, on
il
vous
voulait
traite
pas
de
faire l'Europe
hein,
pour avoir une Europe libre et concurrente.
Dites, hein.
Il voulait faire une Europe qui soit à leur main.
Les historiens, en tout cas, contestent ce que vous dites et on vous traite de complotiste à l'occasion de cette
attendez,
publication.
Vous savez ce que c'est que le complotiste ? Ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes et donc des contre-vérités. Moi, j'apporte 111 pages d'archives déclassifiées. Donc c'est le contraire du complotisme. C'est la vérité, ce sont les preuves, ce sont les faits.
Selon vous, Philippe de Villiers, l'état de l'Europe aujourd'hui est la conséquence de ce modèle bancal initial. Il faudrait donc tout revoir, tout déconstruire pour mettre en place une autre Europe et dans 2 mois voter Marine Le Pen ?
Attendez, je ne m'occupe pas du tout des élections européennes.
On n'a pas l'impression que vous souhaitez la victoire d'Emmanuel Macron.
Vous avez dit que j'étais
un
retraité qui faisait campagne. Non, je suis un retraité qui, en fait, a gardé ses convictions.
Mais qui publie un livre à 2 mois d'élection.
À qui il arrive de temps en temps de descendre sur l'agora pour se mêler à la conversation.
À
la conversation.
C'est pas anodin.
Non. Alors, je vais vous dire qui je suis. Je suis un sonneur de tocsin, voilà. Et donc, je dis attention, ou bien on continue avec une Europe islamisée, multiculturelle, mondialisée,
et on va tout perdre,
la France va s'y perdre, et c'est le grand danger. Il suffit de voir l'actualité de chaque jour pour comprendre que cette Europe sans corps, sans tête et sans racines, elle nous massacre. Ou bien on fait l'Europe que veut Orban, que j'ai rencontrée, c'était une Europe qui garde sa civilisation, la nôtre.
Et en France, souhaitez-vous une victoire d'Emmanuel Macron? Vous vous entendez bien avec Emmanuel Macron? J'imagine que vous lui avez envoyé votre livre?
Non, mais Emmanuel Macron, soyons clairs, il est venu au Puy du Fou. Ouais. Les autres, ses prédécesseurs allaient à Disneyland, donc je préfère Macron à ses prédécesseurs de ce point de vue-là. Et du coup, nous avons fondé une amitié, mais fondée sur la vérité, établie sur la vérité. Cette vérité, elle est rude, et je lui ai dit...
Et qu'est-ce qu'il vous a répondu, là, sur l'Europe, sur le livre ?
Je lui ai dit trois choses. Il dit, il faut arrêter d'être européiste au sens de la Commission européenne qui nous massacre, il faut arrêter d'être mondialiste avec le pacte de Marrakech, et il faut arrêter d'être multiculturaliste. Je lui ai même dit, faites un référendum sur l'immigration, c'est le problème numéro un pour les Français.
Et qu'est-ce qu'il vous répond ? Et qu'est-ce qu'il vous répond aussi sur ce livre que vous lui avez apporté ?
Ah ben écoutez, il est en train de le lire, donc je ne peux pas encore vous dire sa réaction.
Vous lui avez dit ce qu'il y avait dans ce livre, j'imagine que vous en avez parlé.
Que rien ne le choque parce que les esprits évoluent et qu'en voyant aujourd'hui les choses, on comprend que le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs.
Et sa tribune aux Européens, Emmanuel Macron, n'a pas fait vibrer votre cœur souverainiste ?
Alors la tribune d'Emmanuel Macron, c'est un salto arrière. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, en fait, un Européen, c'est quelqu'un qui, dans l'ordinaire des jours, critique l'Europe forteresse, veut de la mondialisation, plus d'Europe, etc. Et puis, quand il entre en campagne, il utilise le mot préférence européenne, l'Europe protectrice, les frontières, mettre à plat Schengen, on a entendu ça 150 fois. Voilà, ça s'appelle du marketing.
Et alors, Philippe de Villiers, est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a changé depuis que les Gilets jaunes ont secoué les grilles du château ?
Non, je pense que... Enfin, je ne suis pas sûr, hélas... Il est virevoltant, il est talentueux, mais pour moi, le message des Gilets jaunes n'a pas été entendu. C'est un cri inarticulé, mais qui veut dire ceci. Vous, les hommes politiques, on vous a confié nos pouvoirs. Qu'en avez-vous fait ? Vous les avez distribués ailleurs. Vous n'avez plus le pouvoir. Et deuxième question, qu'avez-vous fait de la France ? Vous l'avez abandonnée. Vous l'avez reniée. Vous êtes en train de changer la population de la France, nos voisinages, notre mémoire, notre identité.
Emmanuel Macron, qui semble avoir convaincu dans le grand débat les Français, vous pensez que vous n'avez pas retrouvé la figure présidentielle que vous aviez tant aimée ?
Ce qu'on attend d'un président de la République, c'est la verticalité. C'est pas de faire des débats de 6 heures sur des questions catégorielles qui sont importantes, mais secondaires par rapport à la question essentielle. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir confié aux politiques ? Où est-il le pouvoir ? Il n'est plus en France. Et qu'est-ce qu'on fait de la France ? Est-ce qu'on garde la personnalité française, ou est-ce qu'on fait une société multiculturelle à la Marlène Schiappa, à la Aurélien Taché avec le serre-tête, etc. Toutes les bêtises qu'on entend en ce moment sur l'idée d'une civilisation mixte où la civilisation avec nos racines ne serait plus la civilisation dominante.
Merci Philippe de Villiers.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, 8h30, l'essentiel de l'info. Nouveau vote crucial aujourd'hui à Londres au sujet du Brexit. Et puis, une étude scientifique qui nous dit que les Français dorment moins. Attention, danger pour la santé. À tout de suite.
Une belle matinée avec Nico Saliaga sur Europe 1. Il est 8h28. Prochaine demi-heure, Nikos.
David Abicard pour la revue de presse, évidemment.
Bonjour, Nikos.
Bonjour, le mot-clé, c'est quoi ce matin ?
C'est retraite. Je vais vous parler du palmarès du Figaro, des villes où il fait bon prendre sa retraite. Qui sait si ça ne va pas intéresser le président algérien Bouteflika s'il a envie de prendre sa retraite en France ?
Je vais vous parler aussi d'un homme qui ne prendra jamais sa retraite tant qu'il aura la verve, le verbe et l'humour. C'est Nicolas Canteloup, la revue de presse aussi.
Oui, et j'en connais un autre. C'est Laurent Cabrol qu'on retrouve tout de suite pour la météo.
Mais Laurent, tu peux lui dire, on est en direct, il peut tenir le pendant un quart d'heure comme ça,
oui.
Sans notes, sans rien.
Oui.
On est en direct, Laurent.
Non, juste là, je vais piquer. Le printemps, vous le savez, c'est l'hiver qui frappe à la porte de l'été, c'est un peu comme ça qu'on le désigne. Bien. Et ce matin, l'hiver a frappé avec moins 5 au Puy, moins 3 à Dijon, moins 2 à Besançon, moins 1 à Lyon, donc il a fait froid. Et dans l'après-midi, c'est le printemps, donc il va se manifester, presque l'été, en 12 à Caen, 13 à Paris, 17 à Clermont-Ferrand et 18 à Bordeaux. Vous dire que simplement les pluies et les giboulées ne sont pas encore arrivées, mais elles arrivent par la Manche, elles vont vraiment occuper le terrain toute la journée avec vraiment énormément de bonnes pluies dans l'après-midi. Sur Paris, ce sera plutôt ce soir, comme la Champagne-Ardenne, la Vallée de la Loire et le Poitou-Charente. Et dans toutes les régions du sud, eh bien là, vous aurez une journée quasiment estivale. Il fera très bon à Lyon, à Toulouse et à Marseille, par exemple.
Nous Merci. Sommes le mardi 12 mars, toute actualité à 8h30, avec vous Nikos Aliagas.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
L'heure de vérité pour l'accord de sortie de l'Union Européenne, Theresa May le soumet pour la deuxième fois aux députés britanniques. Après avoir arraché quelques pages aux Européens, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, prévient que si cet accord n'est pas voté, il n'y aura pas de troisième chance.
In politics.
En politique, parfois, vous avez une seconde chance. Mais ce que vous faites avec cette deuxième chance est important. Il n'y aura pas de troisième chance si le vote au Parlement échoue. Soyons complètement clairs. Soit c'est cet accord, soit il n'y aura peut-être pas de Brexit du tout. Les députés britanniques ont une lourde responsabilité. Ils ont un choix fondamental à faire.
Jean-Claude Juncker au micro d'Europe 1 avec Isabelle Horry. Mehdi Nemmouche, condamné à la prison à vie pour l'assassinat de 4 personnes au musée juif de Bruxelles. La cour a notamment dénoncé l'absence absolue de regret du djihadiste français. Emmanuel Macron en Afrique de l'Est, le chef de l'État qui est arrivé sur la base militaire française de Djibouti, doit réagir ce matin pour la première fois à la décision du président Bouteflika de renoncer à un cinquième mandat présidentiel. La présidentielle algérienne justement qui est reportée, mais en attendant il reste au pouvoir. Adoption définitive aujourd'hui de la proposition de la loi anti-casseurs après le vote du Sénat. Plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel vont être déposés, y compris de la part du président Macron. Nous dormons de moins en moins, résultat d'une importante étude sur le sommeil publiée par Santé publique France. Moins de 7 heures par nuit en semaine, 6h42 pour être précis, si on inclut les siestes. Dormir peu, c'est le lot de nombreux Français.
Je dors pas beaucoup par nuit, environ 5 heures en général, parce que je finis tard l'école, j'habite à 2 heures de ma fac, donc le temps de rentrer, des fois j'arrive à 22 heures chez moi.
Je dors vraiment mal, je suis crevé, parce que j'ai deux boulots. J'ai un boulot en journée, je suis commercial, et puis le soir, je travaille dans un salon de thé en plus.
Je fais des nuits de 5 à 6 heures, pas plus, quoi. Donc pour récupérer, je m'impose un pénéqué, c'est-à-dire une petite sieste, environ 2 fois par semaine, mais pas plus de 45 minutes, hein, parce qu'après le soir, je peux plus dormir, et après ça devient infernal.
Et vous dormez-vous bien? N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux. C'était des propos recueillis par Bastien Monk. Un mot de football, Zidane, de retour, Zidane le sauveur. Il revient au Real Madrid 9 mois après sa démission surprise. Première séance d'entraînement dès aujourd'hui.
Europe 1. Nikos Aliagas, tout de suite, on retrouve David Abicaire pour sa revue de presse.
Il dort peu, il lit tout, mais il le partage bien. David Abicaire à la une des journaux, Abdelaziz Bouteflika et Zinedine Zidane ce matin.
Et oui, Zidane qui revient au poste de sélectionneur du Real Madrid et Bouteflika qui renonce à un cinquième mandat. L'un est de retour, l'autre renonce, titre l'Alsace en sa double une. L'Algérie tourne la page Bouteflika, embraye le Figaro. Algérie, première victoire, se réjouit Libération, mais... El Watan, l'un des principaux quotidiens algériens, voit les choses autrement. Il annule la présidentielle, mais reste au pouvoir. C'est la dernière ruse de Bouteflika, se méfie le quotidien, comme s'il était trop tôt pour se réjouir. Alors après la figure contestée du vieux Bouteflika, c'est la figure adulée du toujours jeune Zinedine Zidane qui fait la une de Marca, le premier quotidien sportif espagnol qui célèbre le retour du héros à la tête du Real Madrid. Zidane, tout puissant, titre l'équipe comme si c'était un chef d'État qui revenait. Tandis qu'à Marseille, on est fier de l'enfant du pays. Real de Marseille, titre la Provence. Mais la meilleure une, c'est Twitter qui la fabrique aujourd'hui. Twitter où des jeunes Français d'origine algérienne tirent eux aussi une double fierté de ce qui arrive en Algérie et au Real Madrid en s'identifiant au retour triomphal de Zizou dont ils se sentent si proches et en se réjouissant du recul de ce pouvoir algérien vieillissant. Dans l'actualité ce matin, vous l'aurez compris, il y a des jeunes, des vieux et puis du foot.
Et ce matin, le renoncement de Bouteflika est d'abord salué comme une victoire de la jeunesse et des fans du foot algérien.
Et oui, encore faudra-t-il que cette jeunesse ne se fasse pas voler sa révolution, explique Benoît Gaudibert dans l'Est républicain. Mais non, explique Bernard Stéphan de la Montagne, tout en confiance. La société algérienne a changé. C'est la jeunesse qui a donné le tempo aux côtés de toutes les générations réunies, laissant les islamistes sans voix. Mais ce matin, on ira sur le site internet SoFoot qui nous rappelle que les supporters des clubs algériens ont joué un rôle essentiel dans la mobilisation de la rue, alors que jusqu'aux années 70, les stades étaient acquis au pouvoir. Et oui, leurs chants et leurs slogans pullulent désormais dans les manifestations. Ils sont même le symbole d'une jeunesse révoltée qui s'est construite identitairement et politiquement dans les stades, explique Reda Benkoula. Le sociologue poursuit. Les supporters ont rodé leurs mots d'ordre pouvoir assassin sur les gradins avant de les exprimer dans la rue et s'en foutre de rappeler que le football algérien s'est depuis les années 90 éloigné de la tutelle étatique pour embrasser les valeurs modernes du sponsoring privé. Et même si le pouvoir se méfie aujourd'hui des stades en contrôlant le calendrier du championnat, la dissidence pourra désormais compter sur eux pour entretenir la flamme.
Après les jeunes, les retraités, David, avec le palmarès des villes championnes pour attirer les retraités.
Et ce palmarès intéressera peut-être, qui sait, Abdelaziz Bouteflika si jamais il voulait passer une partie de sa retraite en France. Le Figaro établit le classement des villes les plus séduisantes pour nos retraités. Climat, fiscalité, santé, sécurité, culture, logement, le Figaro a mobilisé 70 critères pour l'établir. Et ce classement nous annonce que les villes de l'Ouest jouent à jeu égal avec celles du Sud. Arcachon, Vannes, Andernos-les-Bains n'ont strictement rien à envier à Cannes ou à Arles. Mais la surprise vient de Limoges. Limoges où il n'y a pas la mer, Limoges qui subissait le cliché de l'isolement, Limoges se classe 7e sur 50 devant Nice, Limoges où l'immobilier n'est pas cher, Limoges bien classé sur la sécurité, sur les tarifs des transports ou le cadre de vie. Et puisque je vous parle des vieux qui plébiscitent le climat des villes où il fait bon vivre, il faut parler des jeunes ce matin, Nikos.
Vendredi, ils vont faire grève justement pour le climat et tous les journaux annoncent ce matin que le ministre de l'Éducation nationale veut un débat dans chaque lycée pour parler du réchauffement climatique.
Et ce matin, c'est un journaliste qui a la soixantaine, une soixantaine d'années, qui dans Libération secoue la génération chochotte. La génération qui allait chocotte. Luc Levaillant se paye ce matin les jeunes Français.
Belle plume de Libération.
Belle plume mais cruelle, vous allez entendre cela. En clair, il les trouve politiquement corrects. Voilà ce qu'il dit aux jeunes, Luc Levaillant. Il dénonce leur régression moralisante d'apeurée perpétuelle. Il pense à la génération Y, née entre 1980 et 2000. Les Y sont paniqués, dit-il. La trouille assombrit leurs esprits. Pas toujours sans raison. La planète chauffe, le sexe entre inégaux angoisses, les identités revendicatrices ne font plus société. Elles dramatisent tout, la jeunesse française, jusqu'à l'humour dont elle ne supporte plus la violence pour lui préférer la plainte éternelle. Il va jusqu'à évoquer sa sensiblerie nauséeuse et sa bienséance. Dans Libération, une tribune aussi réac ne manque pas de sel, d'humour, mais aussi d'amertume. Alors pour soigner son ressentiment, on conseillera à l'auteur de tirer la prochaine fois le portrait de la jeunesse algérienne. Peut-être sera-t-il moins cruel.
La revue de presse, quotidiennement dans la matinale d'Europe 1, avec vous, David Abiker.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À ne pas rater, il arrive, il est remonté comme un coucou.
Comme chaque jour.
Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse.
A tout de suite sur Europe 1 avec Nikos Aliagas, il est 8h39. Il est 8h42.
Vous êtes en voiture, dans les embouteillages, vous êtes au bureau, vous êtes peut-être encore à la maison, vous êtes peut-être dans le bus en train de nous écouter avec votre téléphone et le casque. Voici Julie et voici Nicolas Canteloup, la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara est son invité.
Ah. Oui. Philippe de Villiers est mon invité. Abdelaziz Bouteflika, c'est la nouvelle politique géopolitique qui a été annoncée hier. Renoncer à un cinquième mandat, votre regard, Philippe de Villiers?
Écoutez, on annonce Mme Crespo-Mara, tout est son contraire. Moi, je vois deux risques imminents. C'est tout d'abord une embuscade des islamistes qui guettent. Attention, il y en a un derrière vous. Puis le deuxième risque, c'est véritablement une déferlante migratoire algérienne qui pourrait donc déferler sur le territoire en cas de dégradation. Fermez la porte, attention, ils arrivent.
Alors, on vous annonce comme un retraité de la politique, pourtant vous continuez à vous immiscer dans la campagne européenne à venir.
Écoutez... Simplement, il se trouve que, effectivement, je suis un retraité à politique, comme vous dites, mais je me réserve le droit de parler à l'Agora. Et il se trouve que, par hasard, j'ai eu accès, de façon fortuite, à des documents secret défense, classés secret défense. Ça arrive à tout le monde. Hein, vous connaissez Jack Bauer dans la série 24 heures. Ben, c'est moi. Voilà. J'ai eu accès à ces documents à la CIA, de façon... Je vous dis, complètement fortuite, facteur arrivé, devait mettre une pub pour Carrefour Market sur une promo sur une escalope cordon bleu à 5,12€ la barquette de 6 avec une gratuite, et puis non. Il s'est gouré, il m'a laissé une lettre de CIA Secret Défense. dans laquelle je découvre quoi ? Qu'il y avait des versements secrets de la CIA à messieurs Schumann et Monet, créateurs de l'Europe. Monet, comme par hasard, Monet, vous ne savez pas, américain. L'Europe est une créature américaine, une création américaine. Pour faire une Europe à leurs mains. Moi, Madame Crespo-Mara, j'ai 111 pages d'archives parce que j'ai tiré le fil. Hein? Ce fil m'a mené jusqu'à Washington. Oui, c'est un long fil. Je suis arrivé dans le bureau ovale avec ce fil. Tiroir de gauche, il y avait 111 pages qui sont dans mon livre. Voilà. Moi, bon, écoutez, je vois votre regard dubitatif, vous ne me croyez pas, vous parlez de la théorie du complotisme. Écoutez, je vous laisse, parce que moi j'ai un barrage à construire, j'avais coupé des arbres. Je vais faire un barrage anti-algérien à base d'arbres et de tranches de jambon.
Merci à tous les deux. Allez, Nikos, on vous retrouve pour le titre principal de l'actualité.
Ouais, bravo, vous êtes où ? Vous êtes dans votre cuisine, vous êtes dans le métro, dans le bus, dans le souterrain, dans une bouche d'égout. Eh bien, vous nous écoutez, c'est nous. Nous sommes là et l'info surround ce matin, c'est le retour à au Real de Madrid de Zizi. Et pardon, Excusez-moi. Alors, il y a une autre actu, bien sûr. On va plutôt parler de cette annonce politique d'Abdelzizi Bouteflika. Waouh ! Je crois que je vais écouter les chercheurs. Je suis en manque de sommeil. Je vous laisse les clés, Julie. Je rentre dormir à la maison.
Ah, carrément.
Si, comme je vous fais un petit titre sur Abdelaziz Bouteflika, oui, qui a renoncé à son 5e mandat. Il passera donc directement à son 6e mandat.
Merci Nikos. Et n'allez pas vous coucher tout de suite, restez encore un peu. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc renoncé à se présenter pour un 5e mandat. On reçoit Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Le Pen.
Salam alaikum. Et à toute votre joyeuse bala, n'est-ce pas ? 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et quel bonheur, disons-le, quel magnifique pays que l'Algérie. Et souvenir. Et je vous garde dans mon cœur.
On vous sent très en joie ce matin, Jean-Marie Le Pen.
Mais comment, Mme Leclerc, plus que jamais, la démocratie algérienne, n'est-ce pas, est la plus belle des démocraties du monde, faut-il le rappeler, où il fait bon vivre, n'est-ce pas, M. Cabrol. Bien, je vous fais un Cabrol algérien ce matin.
Aïe.
C'est pas folichon, n'est-ce pas, effectivement, 27 degrés Alger, 26 degrés à Oran, 28 degrés à Constantine. Alors, mon message pour tous les Algériens de France est simple, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous foutez encore chez nous ?
Enfin, mais ils sont aussi français, les Algériens de France, allons.
Mais enfin, vous voyez bien que c'est mieux là-bas. Je vous signale que j'étais personnellement à chaque manifestation de mes amis algériens Place de la République.
Ah, par solidarité ?
Non, pour les compter. Et pas, ils étaient 12 236 pour être précis. Oula. Donc je le redis, 1, 2, 3, viva l'Algérie, bon hey.
Merci, on vous laisse, Jean-Marie Le Pen. Le procès tapis s'est ouvert hier. Les juges doivent déterminer si le jugement qui lui avait permis de toucher 404 millions d'euros de dédommagement suite à son litige avec le Crédit Lyonnais était valide. La justice soupçonne Bernard Tapie d'avoir obtenu l'aide et l'influence de Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur Sarkozy, donc votre influence dans ce dossier, hein ?
Bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Agas.
Bonjour Monsieur.
Merci de m'accueillir parmi vous. Écoutez, cette histoire, franchement, est rocambolesque.
Non, rocambolesque.
Oui, comme vous dites, c'est d'une rocambilité inouïte.
Écoutez, on va revenir sur l'affaire. Christine Lagarde a été accusée de négligence dans l'affaire de cet arbitrage.
Mais arrêtez, je n'ai jamais rencontré cette Christine Lagarde.
Mais enfin, elle était votre ministre de l'économie, enfin.
Oui, mais écoutez, c'est peut-être un fait. Écoutez, franchement, on n'est pas obligé de se rappeler de tous ces ministres non plus, hein, n'est-ce pas, M. Paty ? En plus, est-ce qu'on avait eu des bons résultats économiques à l'époque avec cette ministre ? Est-ce qu'elle a divisé le chômage par 4 ?
Non, pas vraiment.
Bon,
non.
Mais voilà, donc ça prouve qu'elle n'était pas très remarquable, cette Christine Lafarge.
Donc vous reconnaissez quand même avoir reçu Bernard Tapie ?
Quelle indignité. Mme Julie, de recevoir Bernard Tapie, vous me reprochez aujourd'hui dans ce studio, droit dans les yeux, d'avoir reçu un homme malade.
Mais enfin, il n'était pas du tout malade en 2007, allons.
En 2007, je m'inscris en faux. Je m'en souviens très bien, je l'ai marqué dans mon
carnet, il avait une grosse rhinopharyngite, un traitement d'une violence inouïe, Doliprane, Vicks, Vaporub, goutte dans le nez. Et vous auriez voulu, vous, que je ne reçoive pas cet homme, Laurence Boccolini ? Quelle indignité de votre part.
C'est Laurence Boccolini. Moi, c'est Julie, hein, je ne suis pas Laurence Boccolini.
Oui, mais c'est vous dire que je ne suis pas physionomiste. Hein. Si ça se trouve, ce n'est même pas Bernard Tapie que j'ai reçu. Oh putain, j'étais bon.
Ah bah oui, comme vous dites, c'est pas mal. Allez, on a appris que Zinedine Zidane retournait à Madrid pour reprendre son poste d'entraîneur du Real. Bonjour Zinedine.
Ouais, bonjour.
Alors vous êtes venu nous confirmer la nouvelle ce matin ?
Ouais, je vous ai écouté à 7h et je vous confirme que je m'appelle pas Zizi. Hein, mais...
j'ai ma langue a fourchu.
Ouais, c'est bien Zizou. Voilà, c'est pas Zizou. Le retour de Zizi, c'est le retour de Zizou.
D'accord.
Je vous confirme. Effectivement, ce n'est pas le retour de Zizi chez Nico Segas. Il est toujours en retraite, Zizi. Je vous préviendrai bien sûr la veille, mon cher Nico. Le jour où je rechausse les crampons.
Merci.
Il y aura une soirée, bien sûr, vous en serez.
Ah, bah évidemment. Merci, Dominique Strauss-Kahn. Bon,
vous en prie.
Zinedine, vous vouliez dire un mot, hein, je crois.
Ouais, non, je voulais m'excuser.
De reprendre le Real ?
Non, de pas reprendre l'Algérie, quoi. C'est vrai que c'est une belle équipe, ce gouvernement, mais je préfère gérer des footballeurs que des militaires. Attention, hein, j'aime beaucoup l'Algérie, j'aime beaucoup la France, c'est vraiment mes deux pays préférés au monde, et c'est pour ça que je vis à Madrid.
Bien.
Merci Zizou. Allez, Abdelaziz, on n'arrête pas avec lui. Hein. Abdelaziz Bouteflika a donc finalement renoncé à se présenter. On va essayer de le joindre, figurez-vous. Ah. Monsieur le Président, est-ce que vous nous entendez ? Monsieur Bouteflika. Monsieur Bouteflika, vous nous entendez ?
Oh non, mais c'est pas vrai, mais n'arrête pas ! Madame Julie, ne criez pas !
Quoi ?
Mais vous allez faire un mal au tympane, monsieur Bouteflika. Il a failli déjà devenir sourd ce matin, il y avait une mouche dans sa chambre. Non, c'est beaucoup trop de bruit pour lui.
Non, mais là, c'est important. Il a renoncé, mais pourquoi ?
Mais pourquoi ? Mais c'est la question que je me pose. Tout le personnel hospitalier se pose la question. Mais pourquoi ? Franchement, je ne comprends pas cette décision. Il est en pleine forme depuis 2 jours. Pas mort une seule fois en 2 jours. Pas un seul AVC ce matin. Alors que d'habitude, je le connais, nous en fait 3-4 la matinée. Il avait réussi à manger une cuillère de purée tout seul sans se l'enfoncer dans l'œil. Il était dans une forme exceptionnelle. C'est incompréhensible cette décision ce matin.
Mais moi, je pensais qu'il vous l'aurait dit en avant-première, quoi. Je sais pas, hier soir déjà ou...
Oh ben non, en avant-première de rien du tout. Non, vous savez, il est très discret. Il est très discret. Ah oui, d'une discrétion, il parle pas beaucoup, vous savez, fait juste bip bip. Vous l'entendez là, il communique, en fait il communique en morse.
Ah c'est lui là, oui d'accord.
Oui. C'est pour pas que la CIA le décrypte, parce qu'après ça a des histoires avec M. De Villiers, bon enfin bref. Mais moi, franchement, je parle bien le morse, mais là, franchement, entre vous et moi, Mme Dacosta, vous savez que c'est spécialiste, faire la différence entre bip bip je renonce et bip bip je reste,
c'est difficile.
C'est pas simple. En tout cas, c'est toujours pas le bip bip qui court vite face aux coyotes. Oh, je suis taquine. Il s'amuse en régie.
Mais tiens, bah oui.
Bip bip.
Non mais dites-nous, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Monsieur Bouteflika?
Oh, écoutez, alors pour l'instant, on ne sait pas. Il y a des débouchés pour quelqu'un de sa stature. Hein. Il peut faire comme M. Ayagas, travailler au musée Grévin. Moi, je vois bien. Ou alors, je vois bien gardien de but du PSG. Oh, en voilà. Alternance avec M. Bouffon. Ils ont le même âge.
Nicolas Coquelot. Grande forme ce matin. La revue de presse, Nicolas et Julie, tous les jours sur Europe 1. À partir de 9h, c'est Wendy Bouchard qui prend le relais sur notre antenne. Son émission s'appelle Le Tour de la Question. Elle exploite 2 thèmes à 9h et à 10h. Quels sont ces thèmes ce matin ? Bonjour.
Bonjour, cher Nico. Bonjour à tous. Alors, la haine sur Internet, est-ce qu'il est possible encore d'enrayer le phénomène ? La loi peut-elle modifier les comportements ? On va en parler avec celle qui propose un certain nombre de mesures, notamment le retrait en 24 heures des propos haineux. La députée Laetitia Avia, et vous venez réagir comme témoin aussi de ces propos sur Internet. Et puis, à partir de 10h, on va parler poésie. C'est les 20 ans du printemps des poètes. La poésie aujourd'hui, les poètes d'aujourd'hui, que vous inspirent aujourd'hui ces mots qu'on nous enseigne souvent à l'école. comment, selon vous? Eh bien, là aussi, on fait le tour de la question. Ça promet d'être beau en paroles et en musique.
On a partagé dans la matinale ce matin un hashtag « La vie sans le web ». Et ça fait un succès, je crois que c'est dans les trois premiers hashtags cités en France. Donc vous pouvez poser la question à vos auditeurs aussi ce matin. C'était comment avant? Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, jour pour jour, où était inventé le web.
Merci Nikos.
Merci à tout à l'heure pour le tour de la question.
Suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale avec vous, Nikos Aliagas, juste avant 9h sur Europe 1.
Tout de suite.
Il est 8h57, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nikos Aliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour un point sur la météo.
Laurent Cabrol, en cette Sainte-Justine, comment est le temps?
Le temps va pas trop mal, surtout il commence un petit peu à entrer dans les pieds, mais ensuite c'est disons de plus en plus mal, si je puis dire, parce que la perturbation arrive seulement sur les côtes de la Manche avec un ciel très nuageux, des vents de 60-80 km/h et cet après-midi des vents de 90 à 100 km/h. Cette perturbation donc qui est là sur les côtes, qui sera là sur les côtes pendant la matinée, va glisser vers le Poitou-Charentes, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et la Vallée de la Loire dans le courant de l'après-midi et de la soirée. Sur Paris, elle y sera en fin de journée, 18, 19, 20 heures. Et puis dans les autres régions, bon répit, sud-ouest, massif central, il fera beau. Dijonais, Mâconnais, Dubotan, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, littoral méditerranéen, c'est pas le grand beau, mais ça sera un temps souvent voilé et doux, car il fera entre 13 et 19 degrés dans le courant de l'après-midi.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le mardi 12 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. À la une ce matin, évidemment, l'actualité en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika renonce, on l'a dit, à un cinquième mandat après 20 ans de règne. Scène de liesse populaire hier soir dans les rues d'Alger. Est-ce pour autant une victoire pour le peuple algérien? Je posais la question à 7h45 à mon invité, le journaliste franco-algérien Mohamed Sifaoui. Voici sa réponse.
C'est un énième subterfuge qui est très facile à voir. Bouteflika dit renoncer à un cinquième mandat, mais il continuera d'être président. Il se donne un délai très long, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans un cinquième mandat sans élection. C'est la manière d'installer la dictature. On est parti à une présidence à vie, comme je ne cesse de le répéter. Donc, qu'est-ce qui a changé? Abdelaziz Bouteflika, l'année prochaine, sera toujours là, s'il ne décède pas entre-temps. Ne pas voir la supercherie qui se dessine, c'est quand même assez incroyable.
Le point de vue de Mohamed Sifaoui ce matin dans la matinale d'Europe 1. Et puis ce sont aujourd'hui les 30 ans d'Internet, une révolution technologique qui a changé notre vie. Écoutez, c'est un petit souvenir de notre vie d'avant. C'était comment avant? La vie sans le web. D'ailleurs, c'est un hashtag qu'on a lancé sur Twitter. Écoutez.
On avait une 25 éditions de dictionnaires différents, c'était super compliqué. Beaucoup de recherches, c'était long.
Le Bon Coin, ça n'existait pas pour trouver des meubles d'occasion.
On se tapait les brocantes, on allait chez Emmaüs, on allait partout, on bougeait beaucoup. On était moins couillons que maintenant en fait.
C'est vrai que nos parents, ils utilisaient des cartes routières et souvent ils se disputaient, d'ailleurs souvent en voiture. C'était la catastrophe, je te disais de tourner à gauche et c'était pas ça, voilà.
Énormément de réactions, Céline Dacosta sur Twitter.
Oui, beaucoup de tweets.
Avec des jeunes qui disent « on sait pas ce que c'est la vie sur Internet ». Et puis un autre qui nous dit « j'aurais pas pu faire le trois quarts de mes exposés, merci Wikipédia, sans faire de pub ». Bref, enquête géniale, nous dit Isabelle Mirocha. Merci de votre fidélité. Une dernière information, c'est notre correspondant Jacques Terrence qui nous le dit. La circulation des trains a paralysé ce matin entre Nice et Monaco, important retard. Jusqu'à une heure parfois, et plusieurs trains ont été supprimés en raison de la présence de piétons dans un tunnel ferroviaire à Cap-d'Agde. Voilà, ils bloquent un train depuis 6h50 et refusent de bouger. Une intervention de la gendarmerie est en cours pour les déloger. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance. Bravo à toutes les équipes éditoriales et techniques de la rédaction d'Europe 1. Prenez soin de vous. Restez à l'écoute. Wendy Bouchard arrive. À demain, Céline Dacosta.
À demain, Nikos.